Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moi je suis dogmatique, je sors des... Ou alors tentant aux deux aphorismes. Mais quelle forme de dogmatisme à la police.
Eh ouais, l'arbitre, s'il avait fait ça, et puis nous, si on avait fait ça, eh bien, et si un pigeon était venu chier sur le ballon au moment où Samson l'avait tapé, eh ben, il aurait glissé son pied dessus.
Gilbert Bribois, il est là.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Et oui, je suis là, bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit en direct, l'after l'émission. Qui dit tout haut ce que les ventes du football pensent tout bas, Daniel Riolo est là, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et Thibaut Leplat également, salut Thibaut.
Camarade, bonsoir.
L'événement ce soir dans l'after, c'est Karim Benzema en Arabie Saoudite. Il a signé, il a montré son nouveau maillot, il a souhaité à tous, enfin il s'est souhaité la bienvenue. On va prendre le temps d'en parler ce soir parce que il faut se poser des questions quand même. On l'a pas encore fait dans l'after. Aller jouer dans un championnat mauvais pour le pognon, est-ce que vous le comprenez? Est-ce que la somme qui va toucher est indécente? On va en débattre tout à l'heure à 23h. Et puis, comme on a beaucoup d'after de 2h dans les jours qui viennent, on va également dans quelques jours organiser un grand débat sur la géopolitique de l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'ils ont la même stratégie que le Qatar? Est-ce que c'est différent? Comment ça fonctionne? C'est en fait assez différent, je peux d'ores et déjà vous le dire. Et c'est intéressant à décrypter, on le fera dans les jours qui viennent. D'ici là, et d'ici le débat Benzema de tout à l'heure, les infos PSG du jour à suivre. À 22h30, l'interview de Vincent Labrune dans l'équipe aujourd'hui. Il veut le milliard en droit télé pour la Ligue 1. Est-ce qu'il nous prend pour des gogos? Messieurs, je vous pose la question, vous y répondrez tout à l'heure. J'ai
déjà parlé de cette histoire de milliards il y a quelques années.
Oui, le milliard.
Tu sais que ça commence à dater, cette histoire de milliard. C'était donc avant Covid, donc on est en train de parler de 2019, c'est ça, le milliard? 2019, ouais, c'est ça.
Sans oublier l'actu du jour, le mercato également au programme d'ici minuit. Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets. Direct studio sur nos applis RMC et RMC Sport qui est disponible, plus les comptes Instagram, Snapchat, Twitter, Instagram, c'est live de l'after. Et Roland Garros, Eric Salio, l'homme des Night Sessions.
Eric Salio, c'est encore démerdé pour se coucher tôt ce soir.
Salut Eric.
Salut à tous. Elle va être courte celle-là.
T'as pas envie de nous proposer un vrai match un soir, toi?
Je sais pas, j'imagine qu'ils ont Mansour Barami sous la main derrière pour faire une exhibition parce que là, ils vont en avoir. C'est terrible.
Non, mais c'est terrible. Dis-moi, Eric, c'est quand même assez choquant de voir que le 1 mondial colle une tartasse aussi énorme à, je sais pas, il est combien maintenant, Titi Pascal?
5.
5. Je trouve que le déséquilibre est assez effrayant.
Disons après, que... peut-être que Titi Pascal est dans un mauvais jour, non?
Non, il n'est pas dans un mauvais jour. Il se fait détruire.
Il n'a pas le jeu compatible pour Alcaraz, mais on se pose tous la question, qu'est-ce que ça va donner contre Djokovic? Est-ce que Djokovic aura les armes pour contrer cette comète?
Oui, bon, on se posera la question à ce moment-là, et puis après tout, là, pour le coup, ça ne m'embêtera pas trop s'il le détruit comme ça, la vérité.
1h33,
mais les deux premiers sets en 1h6-2-6-1, ah oui, c'est Salio vient au TC16 et c'est ce que je lui mets. Quoi. Donc,
c'est du jamais vu.
Ah, c'est compliqué.
6-2, 6-5.
Lui, il ne relève plus mes provocations.
J'ai quelques connaisseurs dans la rédac d'RMC qui m'ont dit, ah, les gars, ce soir, il va falloir que vous alliez après minuit. Hein. Le match va être long. Hein.
Ah bon, qui t'a dit ça?
Ah non, je ne veux pas les noms. Je ne balance pas.
Je ne demande pas de balancer, je ne veux pas savoir les noms. Mais honnêtement, je ne pensais pas à une telle raclée, mais qui gagne en 3-7. Alcaraz, c'était couru d'avance.
Bon.
Eric Salio n'a pas pu te dire ça. Eric Salio est un connaisseur, il le savait. Il savait que ça serait.
Oui, on se demandait comment Alcaraz allait changer tactique peut-être, mais en fait il a pas d'armes, quoi. Il a pas d'armes. Alors là, il fait des petits coups d'éclat pour sauver un ou deux jeux, mais bon, c'est 1h33, quoi. 6-2, 6-1, 4-1, et ouais, c'est une night session féminine.
Il est abasourdi.
Ah oui, il est KO, mais ça peut t'arriver, Daniel, quand t'es KO. T'as pas de solution, tu sais plus quoi faire, t'as qu'une envie.
Non, moi ça m'arrive pas souvent, mais je vais essayer d'imaginer que ça puisse arriver.
Quand on a joué au début, tu me disais, oh non, mais je peux pas jouer contre toi,
je te respecte trop. Pas très sympa de dire que c'est une night session féminine, je trouve.
Oui, c'est vrai que c'est pas très sympa, d'autant que la dernière était plutôt agréable à suivre.
Exactement.
4-2, allez.
D'ailleurs, le tennis applique l'égalité homme-femme. Je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup plus de night session masculine que féminine. Il faudra m'expliquer.
Gilbert, fais pas ton perdreau de l'année.
Là, tu fais un peu l'innocent, le naïf.
Ah bon, bah écoutez.
Honnêtement, là, Gilbert, là, tu me déçois un peu.
Il y a égalité de prime, il doit y avoir égalité de night session.
Oui, mais là, il ne va pas y avoir égalité de gens pour regarder le match. Là, ouais. Si tu fais trop de night session, là, ça va être un problème.
Bon, on fera ça dans l'after tennis un jour. Le PSG. Merci Eric, à tout à l'heure. Le PSG, on y va. Les infos du jour sont les suivantes. Info de Loïc Briley, qui suit le PSG parmi les reporters d'RMC. Galtier, c'est fini. Alors, il n'y a pas encore eu d'officialisation du club.
Oui, non, là, t'es dans la rubrique info, là, ou
non, mais
rubrique,
c'est, factuel.
C'est les choses qu'on sait depuis deux semaines.
Parce que là, très bien. Mais quand le factuel arrive, il faut le relayer.
Ah oui.
Puisque c'est donc là, ces dernières heures, que Galtier a appris qu'il n'était plus l'entraîneur du PSG. Voilà.
Oui, c'était hier.
Voilà.
Pour être précis.
Luis Campos lui a annoncé officiellement son départ.
Voilà. Donc,
et Galtier, attention, on fait savoir, dans l'entourage de Galtier, que désormais on sera très vigilant sur l'aspect juridique de l'affaire. En gros, on veut l'oseille. C'est ce que ça veut dire.
Oui, de toute façon,
c'est la loi française, CDD.
La seule chose qui reste en suspens aujourd'hui, c'est effectivement le montant du chèque qu'il va prendre. Mais à la limite, ça, c'est pas très important. Ce qu'il y a peut-être de plus important à mettre en avant, c'est que c'est au moment où la négociation prendra fin et que donc ils vont se mettre d'accord sur le chèque qu'on apprendra l'identité du nouveau coach.
Ah, pas avant?
Ah ben non. Tu ne peux pas apprendre l'identité du nouveau coach si Galtier n'est pas officiellement viré avec le papier et le chèque.
Ah, tu peux pas l'annoncer, mais l'apprendre, on le saura.
Tu veux dire officiellement, Daniel.
Voilà, en tant que club, voilà. Tu peux pas le...
La présentation du nouveau coach sera faite quand Galtier sera passé chez Micheline à la compta.
Voilà.
Voilà. À ce moment-là. Ça ne veut pas dire que, parallèlement aux négociations pour la rupture du contrat, Campos ne discute pas avec les candidats ou le coach qu'il a choisi pour faire avancer le projet et pour mettre en place le recrutement et la nouvelle équipe pour l'année prochaine. Évidemment qu'il discute avec des gens, mais il n'y aura pas d'officialisation, de présentation du nouveau coach avant qu'on signe le chèque à Christophe Galtier. Voilà.
Alors ça fait penser que moi, la relation Galtier et El Khelaifi, je ne sais pas si vous avez vu Succession. Vous avez vu cette magnifique série incroyable? Il y a deux personnages qui sont un duo extraordinaire.
C'est quoi cette série? Je ne connais pas.
C'est sur HBO, c'est un mélange entre Le Parrain et Dallas. C'est extraordinaire. C'est une série extraordinaire.
Succession.
Et il y a deux personnages comme ça.
À côté
les gens
ça,
qui l'ont vu vont reconnaître. C'est Greg et Tom. Et Greg, c'est le factotum de Tom. Et Tom, c'est un peu l'idiot du village qui devient le grand chef. Et il a avec lui un espèce de cousin éloigné qui est un type qui fait toutes les bases d'œuvres et qui est un type complètement un espèce de gars qui est l'âme d'année en fait de ce gars-là. Et ça fait un duo assez marrant et je trouve que Campos dans cette affaire-là et notamment il lui demande Tom à Greg d'aller virer des gens. C'est pour le tester, dire bon écoute tu es promu, bravo, tu rentres dans la boîte, bon première mission, tu vas virer 150 personnes. Et c'est un peu ça quoi là, j'ai l'impression de voir bon ben nous on va s'occuper du nouveau coach puis toi tu vas aller virer Galtier hein, puis après tu vas assumer.
Oui, mais là en l'occurrence
c'est vrai que vous l'avez pas vu parce que c'est vraiment une excellente série.
Non, bah écoute, je suis passé à côté, mais maintenant je vais regarder. Ouais. Mais en l'occurrence, quand
j'ai pas le temps, je travaille.
En l'occurrence, Campos s'occupe.
C'est quand je travaille pas.
S'occupe du nouveau coach. Il s'occupe du nouveau coach puisque c'est lui qui a.
Nagelsmann, c'est lui.
Qui a ses dossiers. Bah, c'est lui. Oui. C'est-à-dire, je comprends pas ta question en fait.
Ça s'est plutôt décidé à Doha, non? C'est plutôt que j'ai pas l'impression
Doha,
que Campos.
Nasser Al Khelaifi veut Thiago Motta, il paraît.
Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur la question, c'est qu'il y a des candidats qui ont été écartés. Luis Enrique n'est plus dedans. Qui en avait, Xabi Alonso, n'est plus dedans. Qui avait été mis aussi sur une liste pas short, Mourinho, ça n'existe plus, c'est terminé.
Ah, c'est important.
Luis Enrique.
C'est important. Déjà je viens de le dire, t'es pas très attentif.
Pardon. Regardez sa série.
T'es dans Succession, là, encore.
Dans Succession.
Donc, Luis Enrique, c'est fini. Xabi Alonso, c'est fini. De Zerbi était sur la liste. Mais il n'y est plus. Et donc là.
Donc, Thiago Motta est toujours.
Thiago Motta est toujours. Et qui on a dit, donc Nagelsmann est sur la liste.
Ça fait une liste courte, là, quand même.
Non, il y a peut-être encore un ou deux noms, mais pas plus.
Bon, ouais, ça fait quand même une liste courte.
Ça fait,
rappelle-toi, quand Laurent Blanc est pris, il y a au moins 12 ou 13 personnes qui disent non avant qu'on en arrive à Laurent Blanc.
Ça fait un podium, mais un vrai podium, un podium des trois, pas un podium des cinq.
Un podium de Louis des cinq.
Non, j'aimerais bien réécouter
Louis. Podium des cinq de Louis, on doit l'avoir. Hommage à Louis qu'on adore.
Donc voilà, donc il doit y avoir les trois noms encore sur la liste de Luis Campos, ouais.
Quand on parlait de Luis, c'était Luis Fernandez, pas Luis Campos.
Oui.
Ok, alors, ça, on va en débattre, hein, le 32-16 est ouvert. Il y a un truc, moi, qui m'interpelle, en France, on ne fait jamais ce que font les Allemands, par exemple. C'est vrai que Nagelsmann, en fait, il est toujours salarié du Bayern. C'est-à-dire qu'en fait, les Italiens aussi ont déjà fait ça. On ne te vire pas, on te paye. Et si jamais tu veux partir avant que tu aies une offre ailleurs, eh ben tu démissionnes, mon coco. Parce que c'est, tu vois, c'est genre un peu facile de dire, bah, tiens, tu prends ton oseille, tu prends ton année, machin, et puis 15 jours plus tard, tu signes dans un autre club.
Comme Pochettino.
En France, on fait pas ça.
Oui, Pochettino, il est toujours salarié du PSG.
Aujourd'hui?
Oui, bien sûr.
Ah, bah, ah, pardon?
Il est resté. Il lui
Pochettino, resté, aujourd'hui, toujours salarié du PSG.
Toujours salarié du PSG.
Donc il prend sa, son c'est oseille.
Dans,
tous les
dans la presse, hein.
Apparemment, ça m'a échappé.
Ça m'a échappé également, ça.
Oui. Ça pourrait être le cas avec Galtier aussi.
Quel est l'avantage, en fait? Je comprends pas ce que.
Mais si, imagine, t'as un contrat de 3 ans.
Ouais.
Au bout d'un an, on veut se séparer de toi.
Mmh.
Le club veut plus de toi.
Mmh.
Donc toi, tu dis, bah, très bien, payez-moi les 2 ans que vous me devez.
Mmh.
Et là, tu dis, bah non, tu restes à l'arrière du club. Par contre, si tu veux aller ailleurs, bah, il faudra démissionner.
Et attends, excuse-moi, Pochettino, il va s'engager avec un club. Il va pas rester sous contrat avec le PSG.
Bah, non, il va donc démissionner.
Donc à ce moment-là, il sera obligé d'accord.
Et oui. Ça fait faire les économies au club.
Pour se libérer, il doit démissionner.
T'as compris le truc ?
Oui, enfin, si la durée de contrat, elle est de 2 ans, tu vas pas économiser grand-chose, finalement, dans ton calcul.
Une année de salaire, peut-être. Imagine Galtier trouve un club dans 3 semaines.
Je pense que Galtier va se reposer. Il a une année compliquée, je pense.
Bah, souvent, d'ailleurs,
il y a des affaires,
souvent, quand t'as un entraîneur qui te dit je prends une année sabbatique, bon, c'est que tu vois, il y a un truc.
Très bien. Enfin, bon, en tout cas,
bref, ouais.
Voilà. Il y a ce podium, 3 entraîneurs et un choix qui ne devrait pas tarder à intervenir.
Donc, attends, je résume. Aujourd'hui, on en est à. Il y a un courant qatari et il y a un courant Luis Campos. Est-ce que ce courant Luis Campos est soutenu par Jorge Mendes? En Est-ce fait, qu'il y a un courant qatari, un courant portugais?
Non, en fait, je ne crois pas que
et
ce soit.
Un peu un, tu vois, un bras de fer, non, moi, une lutte d'influence.
Je ne crois pas que ce soit forcément comme ça. Je crois que le directeur sportif, en l'occurrence Luis Campos, a les noms, a fait des études, a préparé les dossiers des différents candidats qui sont étudiés. C'est lui qui est allé à Doha pour défendre et son choix prioritaire. Et en gros répondre aux attentes des Qataris qui veulent un coach d'une autre dimension que Galtier. Il a proposé les noms. Effectivement, il y aura une concertation. Mota a des avantages, Nagelsmann en a d'autres. Et après, est-ce que le choix final sera fait entre Campos et Doha? Est-ce qu'ils vont s'entendre ou est-ce que un imposera l'idée à l'autre? En tout cas, pour ce qui est du choix des 3 derniers là qui restent. Les trois sont dans les petits papiers de Campos.
Campos n'est pas en position de force pour imposer un coach à l'heure actuelle, parce que la Galtier s'est avérée quand même plutôt un fiasco. Si je puis dire, un fiasco avec un titre à la fin, mais une saison vraiment dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle était quand même plutôt un échec. Donc je pense qu'en interne, il est moins en position de force que son arrivée où il a pu maintenir et proposer un coach.
Je pense que sur ce nom, effectivement, il y a eu erreur, on est tous d'accord. Les trois qui sont encore sur la liste là, on parle de 3 vrais coachs, de 3 pointures internationales. Alors on va me dire oui, Mota, pointure internationale, Mota, il vient de Bologne,
pointure italienne, on va dire pour
meilleur entraîneur du mois de février.
Bon. Ouais, il a pas encore d'expérience au niveau, mais si tu prends les différentes notes que tu peux lui mettre sur expérience de joueur, expérience d'entraîneur international, il y en a pas. Expérience de joueur, là en l'occurrence c'est beaucoup plus élevé, mais sur différents critères, il va en remplir quelques-uns. C'est quand même maintenant un entraîneur qui en Italie a une vraie cote et est demandé par pas mal de grands clubs.
Thiago Motta, c'est pas un choix sportif.
Tu sais, quand tu choisis un entraîneur comme ça, c'est pas juste au pif quand même. Tu fais des études sur le jeu qui est pratiqué, sur qu'est-ce que le mec met en place. Tu regardes déjà, quand Pablo Longoria t'explique que le coach qu'il veut pour l'OM doit répondre à certaines considérations en termes de jeu. Il parlait hier d'un coach, je sais pas quel qualificatif il avait employé. Il voulait un coach un peu rock'n'roll pour que ça mette le feu, on va dire, au Vélodrome. Donc ça veut dire que Pablo Longoria étudie les possibilités et qu'il dit
qu'il le dit avant.
Je veux qu'il pratique
Paris,
ce jeu-là.
Une fois que l'entraîneur a choisi, on donne les raisons pour lesquelles on l'a choisi.
Non, je pense que
la force de Longoria, c'est qu'il dit avant, il donne ses critères, ensuite tu peux examiner ton choix, regarde ses critères.
Mais je pense qu'au PSG, si l'année dernière il y a eu une erreur sur le choix, parce que là visiblement j'ai pas trop compris quels étaient les critères pour prendre Galtier, là, de ce que je sais cette année, on a envie d'un entraîneur qui va réellement imposer, une marque en termes de jeu. C'est, je pense, un entraîneur qui aura des idées très claires
sur le jeu. Comme on l'a dit pour Tuchel, comme on l'a dit pour Pochettino, qui était présenté comme le nouveau Bielsa.
Alors ça, c'est un autre aspect. Mais je te signale quand même que Tuchel
a imprimé quelque chose quand il est arrivé. Ça n'a pas duré. Emery a essayé, il a été rapidement mangé par les joueurs. Donc, en fait, quel va être le problème? C'est celui qu'on évoque très souvent.
Il va se passer la même chose, hein. Je le dis.
Il se passera pas la même chose. Tout dépend de qui y aura dans le vestiaire.
Tant que tu fais pas un bilan sérieux de ce qui se passe au Paris Saint-Germain, de la gestion sportive du Paris Saint-Germain, de la manière dont s'est passée cette saison, du fond que tu as touché cette saison, tant que tu fais pas un audit sérieux de ça, que tu assumes
pas. Et qui te dit qu'il est pas fait?
Ben, il est pas fait publiquement, donc à quoi il sert?
Mais pourquoi il faudrait qu'il soit fait publiquement?
Parce que ça concerne pas que 10 personnes, le Paris Saint-Germain, ça concerne 10 millions de personnes.
À partir du moment
qui suivent.
Ce serait déjà intéressant,
c'est ce que fait Longoria. Longoria l'a fait hier, donc.
C'est parce que Longoria décide de parler publiquement que d'abord.
Non, mais en termes d'intelligence et en termes de gestion, je pense que Longoria est quand même.
Thibaut.
Fait ses preuves, au moins, c'est déjà la saison.
Thibaut, si, qui te dit que dans 15 jours, ça sera pas fait?
Ah ben on aura l'interview de Nasser dans le Parisien qui veut nous expliquer c'est la fin du bling bling.
Qui te dit
stratégie ça?
Qui te dit que ben alors excuse-moi mais qui te dit que dans 15 jours tu n'auras pas une personne du club pour t'expliquer pourquoi on a choisi cet entraîneur, pourquoi on va renouveler profondément l'effectif?
Et quels sont
les joueurs qui vont arriver?
L'exercice de transparence qui a été fait par Longoria. Je sais que j'ai été très critique cette saison sur l'exercice de transparence qu'a fait Longoria, à savoir de se mettre devant 25 journalistes sans les questions préparées pendant une heure et demie et vous pouviez poser toutes les questions que vous voulez.
Ouais.
Ça, le jour où ça arrive au Paris Saint-Germain, là, je me lève en premier et j'applaudis.
Moi, ce qui va m'importer.
Et pas une interview faite par.
Et il y a l'autre
Moi, ce qui m'importera avant cet exercice de transparence qui, à mon sens, est quand même, peut également être un petit peu factice. Ce qui va m'importer, moi, c'est de savoir.
Une heure et demie devant 25 journalistes, ça se voit, hein.
Ce qui va m'importer, si tu permets, c'est de savoir qui va venir, comment ils vont sortir les joueurs qui sont des points morts dans le vestiaire depuis des années maintenant, et quand, on t'annonce qu'il va y avoir 7 à 8 nouveaux joueurs, je pense que le renouvellement du vestiaire, il va quand même intervenir. Donc déjà, si tu as un renouvellement du vestiaire...
Qui incarne ça, Daniel? Qui le dit? Mais t'es pressé? Ah bah oui, je suis pressé, Dans un instant, Gabriel, je suis pressé, mais je ne présage pas
que ça ne va pas arriver.
Dans un instant, Gabriel avec nous au 32-16, et puis on va
l'important
parler de
l'Ouest
Campus, parce que
j'espère.
Il semble quand même conforté dans tout ce qui se passe, là. Tu le diras, Daniel, ce que t'en penses.
Oui, il l'est.
Dans un instant, le débat continue, et puis ensuite, on débattra de l'interview de Vincent Labrune et du milliard qu'il promet, ce qu'il faut le croire, sans oublier le grand débat autour de Benzema en Arabie Saoudite tout à l'heure à 23h, à tout de suite dans l'After.
C'est 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h20, Daniel Riolo est là, tout comme Thibault Leplat. Eric, salut, un petit point de tennis. Alcaraz, Tsitsipas, Eric, qui est à Roland-Garros.
C'est un moment important puisque Tsitsipas est en train de mettre la tête hors de l'eau. 6-2, 6-1, 5-3 Alcaraz, mais 15-40 sur service du jeune espagnol. Donc deux balles pour revenir à 4-5. Oh là là, c'est pas vrai, il a totalement boisé son verre. Là, il a failli aller dans le périphérique, la balle.
Ça lui arrive, ça, Tsitsipas, parfois.
C'est dommage parce que le public n'attend qu'une chose, c'est le débreak pour vraiment s'enflammer.
Bah, il en reste une occasion pour le faire, là.
Voilà, il y a 30-40. Gilbert, on la suit.
Ouais.
Oui, je sais que t'adores le tennis. Merci Daniel pour
le tennis. Prends, cette prise en otage de l'antenne est un scandale.
Il s'y prend bien.
30-40.
Il utilise ses
bras. Non, mais vous allez peut-être entendre une ovation montée des gradins du châtrier. 30-40, on va voir ce qu'il va faire Stéphanos. Il a du mal à passer ses premières.
La première n'est pas passée déjà.
Si, elle était lette. Elle est atterrée dans le carré. Donc, encore deux balles. Deux balles de service pour Carlos Alcaraz. 1h50 à la pendule. On va peut-être quand même dépasser les 2h, je ne sais pas. Il vise le revers de Tsitsipas. Service volé amorti, rétro. Les fautes, c'est des breaks. Je suis sûr de moi. Oui, c'est confirmé par la trace de Tsitsipas qui va déjà chercher sa serviette. Confirmé par l'arbitre. Des breaks.
Ah, voilà. T'as peut-être pas de coucher si tôt, toi.
Mais oui, la remontada grecque.
Ah, tout à l'heure, Eric.
Remonte à 10.
Avant d'accueillir Gabriel, autre info du jour importante concernant Paris, c'est donc le bras de fer qui oppose le PSG à l'Inter concernant Marcus Thuram. Marcus Thuram est en fin de contrat, il est donc libre et Paris veut le prendre. Ce qui ne remettrait pas en cause l'arrivée d'un autre grand numéro 9 type Osimhen. Hein, voilà. Donc c'est important de le préciser. Le PSG qui a également expliqué gentiment à Hugo Ekitike que si jamais il voulait aller voir ailleurs, ça ne dérangerait pas. Bon, ils ont quand même payé 34 millions pour le faire venir.
Donc Neymar est également sur la liste des sorties, à condition de trouver quelqu'un. Il y a quelques clubs qui, semble-t-il, seraient un peu intéressés. En tout cas, le but, c'est de le sortir. Messi, c'est terminé. Qui nous avons d'autres encore?
Verratti, on s'opposera pas à un départ, même si d'un point de vue de l'oseille, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une prolongation de contrat, mais on s'opposera pas à son départ non plus. Et en gros, oui, c'est au moins 7-8 nouveaux joueurs. Donc c'est un profond renouvellement quand même qui se prépare. Avec la volonté première, c'est de construire une équipe. Je pense que ce message-là, qui a été répété, rabâché par nous, par énormément de supporters toute l'année, de ne plus vouloir mettre en premier une politique de star et de business avant le jeu, il y a une volonté de changer là-dessus. Alors c'est vrai que ce sont des promesses qui ont été également faites l'année dernière et qui n'ont pas été tenues. Pour cette année... L'année dernière, l'intention était déjà de sortir Neymar. Ça n'a pas été possible, mais c'était déjà l'intention. Cette année, c'est de nouveau... Alors, on peut espérer que si ça n'a pas marché la première fois, ça peut, sur la deuxième fois, marcher.
Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où ce n'est pas assumé publiquement, dans une condition où tu as vraiment de responsabilité, c'est-à-dire avec des échanges, avec éventuellement des journalistes ou avec des gens qui seraient capables de donner le change, je pense que ce sont des vœux pieux qui vont tenir un mois, comme chaque saison. Donc tant que c'est pas assumé clairement, qu'il y a pas un virage qui est très clair.
Et par comment tu veux que ce soit assumé?
Par son président, par son directeur sportif, ou à mon avis plutôt le président. Assumer ça, assumer les erreurs.
On verra.
Tu peux pas faire de nouveau si t'assumes pas les erreurs.
Déjà, on va voir quel genre d'interview.
Donc je répète toujours la même chose.
Déjà, on va voir quelle interview il va donner. Je sais que je suis.
Ça m'étonnerait qu'il nous fasse une.
Je suis assez sceptique sur la qualité de l'interview, surtout que son choix de média est toujours un petit peu.
Mais je parle de médias publics, dans le sens il faut que tous les médias soient
sait,
là.
Oui, on sait qu'il va... On sait qu'il
comme
va,
ce qu'a fait Longoria, il l'a fait très bien.
On sait qu'il va choisir, absolument. On sait qu'a priori, ce n'est pas le genre de truc qu'il aime faire. Et en plus, je ne crois pas qu'il ait la connaissance du foot et la capacité à évoquer tous ces sujets.
Ah oui, c'est sûr qu'il est loin de Longoria. Ah
bah comme
oui,
Longoria,
effectivement, ça pose un problème.
Ça c'est clair. Maintenant, on peut également se dire que cette année, ils sont tombés tellement bas et croire qu'il peut y avoir une prise de conscience pour qu'enfin quelque chose change.
Ils envoient toutes les semaines, 3-4 fois par semaine, un entraîneur devant toute la presse pour répondre à des questions, dans des situations qui sont parfois délicates, mais eux, ils répondent jamais.
Bah, ça, Nasser,
On verra au mois de juin, en tout cas. Moi, ce que je peux te dire, c'est ce qui se prépare en coulisses.
On verra déjà, si ils sont sûrement pour donner Stéphane Guy, Nasser à rien, et voilà.
Moi, je commente ce que tu dis.
Déjà, tu peux commenter ce que je dis, si t'as envie.
Gabriel, bonsoir.
Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Thibault.
Salut.
Quand on entend toutes ces précisions, il y a une qu'il faut qu'on ajoute quand même, c'est que dans tout ce qui se trame, on constate que Luis Campos, parce que certains disaient, ouais, il pourrait peut-être disparaître du paysage, c'est pas la tendance, hein, par ailleurs. Voilà. Donc Gabriel, quand on entend tout ça, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce soir?
Moi, j'ai envie de rire, en fait. Je vous annonce déjà, on va vivre le même scénario qu'on vit depuis 5 ans. Et on va se faire sortir en février, et puis c'est tout. Déjà, le problème du coach, on va commencer par ça, en fait. Alors, à Doha, ils volent Nagelsmann.
Nasser, Thiago Motta.
Non, tu vois ce que tu dis? Déjà, ce que tu dis est complètement faux, déjà. Ce que tu dis est complètement faux.
Bah non, parce que Nasser El Khelaifi voulait lui Thiago Motta.
Non, non, mais déjà tu viens de dire le contraire dans ta phrase d'avant déjà.
Quand tu dis à Doha, dis Nasser El Khelaifi, parce que lui il obéit aux ordres.
Quand moi je dis, oui, mais je suis d'accord avec vous, mais n'oubliez pas que Tourelle, c'est Doha qui l'a choisi.
Oui, d'accord.
Mais à la base, a priori, alors j'ai pas les mêmes infos que vous. Moi je me contente de ce que je peux lire. Mais a priori, Doha c'était en gros plus ou moins Nagelsmann avec une possible doublette Thierry Henry. Nasser El Khelaifi, de ce qui ressortait, lui, il voulait Thiago Motta, et Campos, lui, il veut Luis Enrique. Alors déjà, on a les trois têtes du club, en fait, il n'y en a pas un déjà qui veut le même entraîneur.
Et en fait, ce que tu dis, ce que tu dis est faux, déjà.
Tu nous as entendu tout à l'heure.
Ce que tu dis est faux.
Daniel, je te dis pas le contraire. Moi, je reste sur ce que j'ai lu. Alors, si ça a évolué entre temps.
Mais là, on a donné les infos.
En fait, tu sais que dans une situation comme celle du PSG ou de n'importe quel club, même pour l'OM, ça vaut pour tous les clubs. La situation d'avril, de mi-avril, de fin avril, de mi-mai. En fait, ce sont des discussions. Tu discutes avec les gens, et puis peut-être que le PSG veut un coach qui est en contrat, peut-être un autre. Thiago Motta, par exemple, est sous contrat. Bon, il a envie évidemment de changer de club et d'aller vers un club plus important. Mais peut-être que Thiago Motta, il attend parce que la Juve et la place peut se libérer et ça l'intéresse. Peut-être que l'Inter, Inzaghi, après la finale de Ligue des Champions, il va s'en aller, donc il attend aussi. Donc, en fait, tout ça, tu dois le prendre en considération.
Ouais,
donc,
tu
ne peux pas rester figé.
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
Donc ce sont des discussions. Donc, moi, ce que je te dis aujourd'hui, c'est que là, au moment où on se parle, que ce soit au Qatar, Nasser et Campos, ils sont sur la même longueur d'onde. Il y a trois noms
C'est les trois finalistes pour le poste d'entraîneur. Il y a la volonté de changer 7 à 8 joueurs. Je t'ai dit pour Neymar, je t'ai dit pour les joueurs. Donc aujourd'hui, la vérité c'est celle-là. Mais dans les coachs qui sont sur ce podium de fin là, il y en a qui Nagelsmann par exemple est complètement libre encore. Bon, il est sous contrat avec le Bayern mais il s'en ira. L'histoire de Thierry Henry, moi je te dis pas que c'est complètement vrai par exemple. Moi j'ai pas ces échos là. J'ai pas les échos que Thierry Henry viendrait avec Nagelsmann, par exemple.
T'es sûrement mieux informé que nous, qui sommes de simples suiveurs.
Moi, ça, là-dessus, moi, j'ai pas, par exemple, j'ai pas le truc de Thierry Henry, je l'ai pas, par exemple. Alors, peut-être que ce sera ça, mais moi, j'ai pas ça, donc, on verra.
Moi, je disais Jérôme Rotten aussi, hein.
Il disait quoi?
La même chose.
Qu'il n'y avait pas Thierry Henry?
Oui.
Ouais. Moi, j'ai pas cette histoire.
On peut discuter entre eux, et puis voilà.
Cette histoire de Thierry Henry, moi, je l'ai pas. Cette histoire de Nagelsmann qui est dans les trois, oui. Mota est dans les trois, oui, plus un. Voilà, c'est ça, je peux te dire. Donc, Luis Enrique, Xabi Alonso, Mourinho, tu peux enlever. Après, si au dernier moment, Nagelsmann dit non, je veux pas venir parce qu'il y a ça qui me plaît pas, et Thiago Mota dit ah oui, j'étais sur la shortlist, mais finalement je vais à la Juve, ben peut-être un de ceux qui n'était plus du tout sur la liste
va revenir.
Mais là, au moment où je te parle, la volonté des décideurs, elle est sur les deux noms plus un que je t'ai cité. Voilà.
Tiens, Gabriel, il y a Louis qui veut intervenir sur cette histoire.
Dans le podium, c'est quoi? C'est dans les trois ou dans les cinq?
Voilà. Merci Louis.
Non mais après moi j'ai un autre souci, c'est que avec le directeur sportif, j'ai rien contre le travail d'Obis Campos, hein. Enfin, et encore que bon, j'attends de voir encore parce que je reste mitigé sur cette saison-là. On ne sait pas qui est l'entraîneur, mais on achète déjà des joueurs. Donc moi ça, enfin alors j'ai, enfin je sais pas qui va être l'entraîneur, hein. Mais du coup, ces joueurs, il les choisit comment? Parce que s'il prend des joueurs dont l'entraîneur n'a pas besoin ou qui ne rentrent pas dans le schéma de jeu de l'entraîneur, on va en faire quoi en fait de ces joueurs-là?
Bah oui, c'est ce qu'on disait hier soir.
Et c'est pour ça que je dis que moi personnellement, enfin voilà, je suis parisien depuis très longtemps, depuis un peu avant l'ère Canal. J'attends de voir en fait, je m'emballe plus maintenant, voilà, j'attends de voir. Effectivement, je comprends que les discussions pour remettre Neymar de côté, c'est compliqué, c'est difficile de dire plus.
Après les joueurs qui ont été pris jusque là, alors d'abord, rien ne dit que même si l'officialisation interviendra après que Galtier se soit barré, rien ne dit qu'il n'y a pas déjà des discussions. Et les joueurs qui ont été pris jusque-là entrent à peu près dans n'importe quel système. Ce sont plutôt des mecs assez neutres de ce côté-là. C'est plus pour les autres où il y a des contacts et où il y aura discussion avec le coach choisi.
Des enjeux de pouvoir à l'intérieur de la direction. C'est-à-dire que quand tu fais venir des joueurs, c'est toi qui les as fait venir, c'est pas pareil. Surtout quand ils ont le même agent. C'est le cas de Jorge Mendes, dans le cas d'Ugarte et d'Asensio. Il y a des enjeux de pouvoir à l'intérieur de la direction sportive, à l'intérieur du club, à l'intérieur du vestiaire, et que imposer des joueurs aussi avant qu'un nouvel entraîneur arrive, c'est une manière aussi de marquer le territoire, quoi.
Absolument.
C'est aussi une manière de dire voilà, ces joueurs-là, ils sont à moi. Donc, parce que l'entraîneur va venir avec ses propres joueurs, avec ses propres, il va certainement avoir 2-3 recrues qui vont lui être accordées. Donc tout ça. Et c'est pas qu'un enjeu sportif, Gabriel, et c'est un peu le problème de ce club, c'est-à-dire que finalement le football, bon, c'est
bien. Mais tu sais, sur cette histoire de joueurs qui viennent et tout, des fois on dit
c'est pas des cracks, quoi. Il a pas signé des cracks. Il aurait pu attendre un mois, il aurait signé le même type de joueur, quoi. Ça, je veux dire.
Le mot de la fin, Daniel.
Et je pense que les cracks, s'il doit en arriver, des joueurs un petit peu, il y aura visiblement grosses stars, non, mais des joueurs un petit peu plus forts que ceux qui sont arrivés, s'ils doivent arriver, ils viendront justement.
Le Real recrute Jude Bellingham,
en discussion et en accord avec l'entraîneur. Maintenant, il se peut aussi, et ça arrive, que l'entraîneur vienne avec des joueurs avec lesquels il a envie de bosser et ça se passe pas bien et les joueurs sont pas bons.
Donc oui, bien sûr, l'idée, il y a l'idée moins de chances qu'ils soient pas bons, le fait qu'ils viennent avec cet entraîneur-là.
On en a vu des joueurs qui sont chouchous d'entraîneurs et qui se déplacent avec l'entraîneur, les mecs les fait jouer, et c'est des mecs qui sont pas bons au final.
À ce niveau-là, c'est rare. Et c'est beaucoup plus rare que les joueurs qui sont fait venir par le président au directeur sportif.
Je remercie Gabriel,
l'entraîneur n'en voulait pas.
Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment
merci Gabriel au 32-16. Alors juste sur Pochettino, effectivement, si, ce que tu dis, se confirme, c'est-à-dire qu'il était toujours salarié du PSG donc jusqu'en juin 2023, puisque son contrat s'arrêtait. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'est fait une petite année tranquille à 1 100 000 euros brut par mois sur la plage.
Il est bien, Pépère.
Voilà.
Voilà.
Et peut-être pour ça qu'il a
là maintenant, il se barre et va à Chelsea.
Voilà. Dans un instant, on revient avec.
Oui, il gère un groupe de 50 joueurs.
Ouais. Mais écoute. comme bientôt Strasbourg
sera demain, et après
Chelsea sera bientôt la filiale de Strasbourg, donc on va s'arranger. Dans un instant, l'interview de Vincent Labrune, il veut le milliard. Est-ce qu'il nous prend pour des gogos? On en parle dans quelques instants avec vous au 32-16.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h36, Daniel Riolo est là, Thibault Leplat est là. Avant de parler de Labrune, j'ai une petite info PSG, une dernière petite info anecdotique PSG, mais enfin qui fait beaucoup réagir à Verneuil-sur-Seine. C'est où c'est Verneuil-sur-Seine? C'est dans les Yvelines, c'est une petite ville qui est à 14 km du Camp des Loges. Donc c'est quand même la zone Paris quoi. Tu vois, les Yvelines, c'est très PSG, Camp des Loges, Saint-Germain-en-Laye et tout. Et ben Verneuil-sur-Seine, la mairie, qui a des liens avec le PSG d'ailleurs, a choisi de donner le nom de son stade à un joueur de l'OM. Eh oui, il va s'appeler le stade Matteo Guendouzi.
Ça, c'est complètement fou quand même.
À 14 km du Camp des Loges, le stade Matteo Guendouzi.
Avec des jeunes, parce que oui, lui, il vient de là-bas, mais avec là-bas, des jeunes du PSG qui vont s'entraîner là-bas.
Qui jouent là-bas? Ouais. Au stade, le PSG va donc jouer au stade Matteo Guendouzi.
Enfin, certains jeunes, hein, pas le certains PSG, jeunes. Quoi.
Et oui, mais il a passé par le club, il est passé par Paris.
Peut-être qu'ils ont quand même, ils ont quand même attendu la fin de la saison en se disant, bon, tiens, Guendouzi, il a sans doute quitté l'OM.
Il ne sera plus à l'OM, mais bon.
Ils n'ont pas annoncé ça il y a trois semaines.
L'initiative est moyenne.
Il portait pas là sur la photo, la fameuse photo pendant le mondial avec les clubs formateurs.
Bien sûr.
Et Guendouzi.
Ah oui, il voulait pas se poser avec le maillot du PSG.
Le seul absent de la photo. Bon, je voulais pas poser avec le maillot du PSG, ce que je trouvais personnellement assez ridicule, mais bon.
Ah, c'était pour lui éviter les emmerdes. Je pense que là.
Oui. Encore une fois, on revient au thème d'hier.
Oui, bon. Alors, passons maintenant à Vincent Labrune, les gars. On a même un petit jingle, un nouveau jingle, Vincent Labrune, que l'on vous propose en exclusivité mondiale tout de suite.
Tout cet argent que vous allez gagner, vous allez en faire quoi? Vous allez les placer
dans la popoche. Oui, les sociaux, la mélia.
Non, ça intéresse les gens. Attendez.
Sketch des inconnus, bien connu. Ouais,
excellent.
Le milliard.
Surtout dans la popoche.
Et la popoche, exactement. Donc Vincent Labrune.
Bah là, ils sont pas encore dans la popoche. Hein,
ouais, là, il a pas encore tourné la roue là pour avoir le milliard.
Donc l'interview dans l'équipe qu'on attendait. Donc cirage noir ou marron?
Alors permettez-moi de rappeler quelques ce que tu dis quand même, le factuel d'abord.
Qui a fait l'interview déjà? Est-ce que tu peux?
Étienne Moiti, non? Les interviews.
C'est étonnant ça.
Journaliste de l'équipe qu'on salue.
Oui, enfin, c'est le seul à qui Vincent Labrune parle en fait.
Enfin, parle en on.
Et en off.
Il a toujours parlé à beaucoup de journalistes, Vincent Labrune.
En l'occurrence, quand il a un truc à faire passer, il choisit toujours le même. Comme ça, alors, il est sûr, parce que c'est également un journaliste qui animait des conventions où Vincent Labrune parle.
Étonnant, non. Étonnant, non, parce qu'on commence à connaître un peu le.
Par quoi devrait-on être encore étonné?
Oui, alors on n'est pas étonné. Étonné n'est pas le bon mot. Alors trouve-moi le bon mot, s'il te plaît.
Consterné, ça va?
Voilà, consterné, je préfère.
Bon, arrivons-en à cette interview. Avant de parler du milliard, il s'est félicité parce qu'il dit cette année, il y a quand même eu beaucoup moins d'incidents que l'an dernier. Là-dessus, il n'a pas tort, parce que l'an dernier, rappelez-vous, les jets de bouteilles, les
supporters. Il n'a pas tort, surtout dans l'interview, quand même.
Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'incident, parce qu'il y en a quand même eu des majeurs, là, notamment ce week-end, hein, entre Bordeaux et Ajaccio, notamment. Mais il s'est félicité. Il a reparlé de la fameuse opération de lutte contre l'homophobie, qui pour lui, est un succès, parce qu'il dit, finalement, il y a moins de 1% des joueurs qui ont refusé. Et il dit, et l'année prochaine, on sera intransigeant avec les joueurs qui refusent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Cette question, je l'ai trouvé plutôt pas mal.
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont sanctionner les joueurs? C'est pas des suspensions, j'en sais rien, je sais pas.
Vincent Labrune, il fera un très bon consultant pour commenter l'actualité. Ça en fait pas de lui un président visionnaire. Il a commenté l'actualité de la Ligue 1. Je reprendrai.
Ce que je veux dire, c'est qu'il a pas parlé que pognon. Il a aussi dit qu'il soutenait Philippe Diallo. C'est assez marrant parce qu'il a dit.
Il a dit
Philippe Diallo a choisi un super directeur général, alors qu'on sait très bien que c'est lui, Vincent Labrune, qui était à la manœuvre pour que ce soit lui qui soit choisi.
Donc, Vincent Labrune veut que ce soit Philippe Diallo, comme ça deviendra son pantin, il pourra tout contrôler, puisque Vincent Labrune, son envie, c'est de contrôler de A à Z le football français, donc c'est d'avoir un pantin.
En même temps, il a un poste où il a du pouvoir.
Logiquement et historiquement, le président de la Fédé a toujours été un petit peu au-dessus. Oui. Du président de la Ligue. Hein.
Poste des règlements, donc.
Rappelez-vous les conflits entre Le Graët et Thierrier à l'époque.
Il y en a un qui a le droit, il y a l'autre qui a l'oseille.
Pouvait pas se blairer.
Voilà. Donc, là aujourd'hui, lui, il veut inverser le rapport de force. Et il veut être lui le patron et avoir un pantin qui dirige la 3F et des présidents de club qui lui mangent dans la main ou qui sont ses laquais, type Jean-Pierre Caillot, Laurent Nicolin, enfin tous les présidents qui lui mangent dans la main. Voilà. Mmh. Et lui ne répond qu'à une seule personne, Nasser Al-Khelaïfi, qui est son grand chef. Dès qu'il y a une question d'oseille, il lui passe un coup de fil. Qu'est-ce qu'on fait, Nasser ? On fait comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça.
Eric Salio nous appelle, il y a une balle de match.
Ah. Ouais. La numéro 4 pour Carlos Alcaraz. On est dans le tie-break du 3e. 6 points à 3, c'est Tsitsipas qui est au service. Il a serré le jeu, hein, dans le tie-break, Carlos Alcaraz, parce que il y avait danger. Il y avait danger d'un joueur qui commençait à prendre feu, un public aussi qui était beaucoup plus investi. Et il a serré le jeu. Voilà, l'échange s'installe et il part à la faute. Non, elle est bonne. Ouh là là, il a pris la ligne, Tsitsipas. Il est chanceux. Il est chanceux. Et Carlos Alcaraz n'a pas pu remettre la balle et échoue dans le filet. Donc, 4 balles de match sauvées par un courageux grec.
Le problème, c'est qu'il en reste encore 2 là.
Ouais, tout à l'heure, il était quand même à 6-2, 6-1, 5-2. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
T'avais préparé ton sac, t'étais prêt à rentrer chez toi.
Oui, et puis j'allais clouter le cercueil, moi c'était fini. Mais non, il s'est accroché, je dis chapeau, Ace. 5e balle de match sauvée. Attention, cette fois-ci, c'est Carlos Alcaraz qui va servir. Je serai lui.
Bon, on se met la suivante, mais après.
Si après, il y a 6-6, ça va devenir encore plus chaud.
Après, il y a un petit changement, Gilbert, tu sais comment ça marche, tu sais.
Oui, bah, le changement, on va pas.
Le changement, on le fera pas, le changement. Non. Allez.
Allez. Donc, si non, avec Anthony, finir, là, on a du nez, il sert à gauche, Daniel. Il a un gros kick,
ouais,
tu sais.
Il va lui mettre. Il va lui toucher la zone de revers.
Et peut-être même service volé. Moi, c'est ce que je ferai. Et comme c'est un garçon qui tactiquement se trompe rarement, on va voir ça. Allez. Balle de match numéro 5. Il sert le revers de Tsitsipas et derrière, service demi-volée et volée gagnante. C'est fini. C'est du grand art. Chapeau, Carlos Alcaraz. Démonstration 6-2, 6-1, 7-6 en 2h12. Vendredi. Gardez votre vendredi. J'ai pas encore l'horaire. Tsitsipas.
Premier ou deuxième
Alcaraz,
match
Alcaraz, Djokovic. Deuxième match probable parce que c'est mieux pour France Télévisions.
Vendredi, deuxième match. Parce qu'il faut que je libère mon après-midi, tu comprends.
Bon, écoute, tu appelles les gens de France Télé, ils vont t'arranger le coup.
Ouais, non, faut que je libère surtout pour me trouver des places, c'est ça, ce France Télé. C'est pas France Télé qui m'a invité, hein.
Voilà. 2h12, je sais plus l'heure exacte, mais, et Marion Bartoli arrive, on dirait une princesse. Elle a une cape rose magnifique. Elle va procéder à l'interview d'après-match. On s'est régalé, c'était sympa.
Je sais pas quel genre de princesse t'avais quand t'étais petit, mais bon.
J'en avais des. Merci Eric, bonne soirée.
D'accord, ouais.
Allez, revenons à la brune. Donc, je continue. Maintenant, on va parler oseille. Donc, il dit, il dit même pas un milliard. Il dit là, l'objectif c'est un milliard là sur les prochaines saisons, mais il veut arriver à 1,6 milliard, donc quasiment 2 milliards en 2027. Donc voilà l'ambition.
Non, alors attends.
De Vincent Labrune.
Un beau projet sportif.
Non. Il faut décrypter. Lui.
Non, c'est Daniel, tu connais, non?
Vincent Labrune, pendant très longtemps, il disait que le milliard, il voulait y arriver là.
C'est ce que je viens de dire.
En 2024. Non, t'as pas dit ça.
Si, j'ai dit ça.
Non, t'as pas dit
ça. Tu réécouteras.
Mais tu l'as pas dit dans cet ordre-là.
Enfin, il est fort celui-là.
Ça va, on vous dérange pas.
Allez, passons.
Non, il le voulait maintenant. Et là maintenant, comme il s'est rendu compte que ça va peut-être être compliqué de l'avoir, le milliard, il a dit, on va plutôt viser 2027 avec mes amis de CVC. Tu auras noté le nombre de fois qu'il a cité CVC?
Ah bah bien sûr.
Ah c'est vraiment, c'est genre mes amis de CVC, mes amis qui ont le blé, mes amis qui ont du pognon, mes amis machin, si cela. Alors là, il sert bien comme il faut, CVC. Donc là maintenant, il a reporté à 2027. Mais combien il y aura en 2024? T'as remarqué qu'il était quand même à chaque fois un petit peu flou dans la réponse.
Il n'était pas complètement
sûr de ce qu'il allait avoir parce qu'il a bien compris que Canal n'irait plus, que Canal ne serait plus sur le foot.
Il
l'a dit et c'est un vrai problème parce que moins il y a de concurrence, moins t'auras d'oseille et qu'il essaye effectivement de rencontrer plein de gens. Je sais pas qui peut vendre à part Amazon. Qui sont les acteurs qui peuvent rentrer?
Amazon.
Il rêve d'Apple. Ils rêvent d'Apple. Et...
ils vont diffuser ça où?
Casque, là, le truc. Ils ont sorti, là.
Apple Télé, ils vont diffuser le foot. Oui.
Aujourd'hui, il y a un accord avec Canal, par exemple. D'ailleurs, cet accord avec Canal, on l'a déjà dit dans l'after, peut-être qu'il est malin de la part de Canal. Parce que si Apple achète les droits, ça veut dire que sur l'appli Canal, pam, t'as la Ligue 1. Et donc, Canal, en payant 0, il pourrait récupérer la Ligue 1.
Et quel intérêt Apple aurait
à... Je pense pas qu'Apple va lâcher pour 0€ Canal.
Quel intérêt Apple aurait à mettre une énorme somme sur... sur la Ligue 1.
Les abonnements.
Moi, je franchement.
Les abonnements, mais je te signale que c'est exactement le pari qu'a fait Mediapro de croire qu'ils allaient avoir beaucoup d'abonnements. Tu sais combien ils ont eu d'abonnements Amazon? Les chiffres sont pas communiqués, mais on sait qu'ils sont très mauvais. les chiffres d'Amazon.
Oui, alors Amazon, c'est pas si simple, Daniel. On te l'a déjà expliqué mille fois.
Les ventes liées, je sais, c'est parce que tu t'abonnes à Amazon pour acheter, j'en sais rien, n'importe quoi, un vélo ou, genre, ou un livre.
Alors attention.
Et en même temps, tu prends, mais Amazon Prime.
Amazon, si tu veux, un soir, on fera une spéciale fonctionnement. Non, parce qu'en fait, Amazon, j'ai appris ça récemment par quelqu'un qui travaillait chez Amazon. Ils sont très, très forts sur un truc. C'est qu'ils arrivent à pister à chaque page près, évidemment, chaque abonné. Donc, ils savent si toi qui t'es abonné pour le foot, est-ce que c'est par le foot que t'es arrivé sur le site? Qu'est-ce que t'as acheté sur le site? Ou alors, est-ce que c'est par le site que t'es arrivé au foot? Et donc, derrière, t'as toutes ces publicités adressées. Donc, au final, en fait, l'opération Amazon, c'est pas si sûr que ça les arrange pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'ensemble du business et de l'écosystème Amazon, comme dirait notre ami le Chip, est gagnant.
Je veux bien ton écosystème, mais ça ne changera pas.
Mais c'est moins le cas avec Apple.
Ça ne changera pas. Deux constats. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas eu autant d'abonnés qu'ils le voulaient. Ça, c'est clair et net. Deux, que les audiences ne sont pas bonnes. Et trois, qu'ils n'ont mis pour l'instant que 240 ou 260 millions.
Ils ont fait une affaire.
Exactement, ils l'ont eu pour une bouchée de pain. Et que je ne vois pas pourquoi, puisqu'ils l'ont eu à ce prix-là, d'un coup, ils augmenteraient le prix de 400 millions pour aller à 650. Le vrai problème, ça va être de remplacer Canal et Bein, qu'on fait en sorte qu'on soit à 680.
On aimerait entendre de la part du président de la Ligue une stratégie de valorisation du football français. La valorisation n'est pas égale forcément à oseille. On peut parler d'argent, on peut parler de milliards si ça les intéresse, mais c'est pas ça qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir comment c'est possible que sur 40 clubs professionnels, par exemple, il n'y en ait que deux qui soient rentables, deux qui ont des activités économiques rentables hors transfert, c'est les seuls, Pau et Bastia, même pas, c'est pas Lens, c'est pas le PSG. On aimerait savoir d'où vient ce carambolage et ces échecs à répétition en Coupe d'Europe. On a envie de savoir ça. Et on a envie de savoir qu'est-ce que c'est que ce championnat. Qu'est-ce que c'est que la Ligue 1, en fait? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire quand on est à la Ligue 1?
Ça, ils l'ont fait à l'époque de Mediapro, c'est la Ligue des talents.
Mais non, mais ça, c'est vraiment, un slogan.
Si tu veux du slogan marketing,
c'est un slogan.
Ils l'ont déjà.
On continue le débat, les gars.
Slogan, c'est pas ça qu'on veut.
On continue le débat dans quelques instants.
On vient de faire une pub il y a deux minutes, on va encore faire une pub.
Bah oui, j'ai des obligations.
Et non, toi, t'en rentres de l'oseille.
Et les obligations, elles te concernent aussi, tu le sais. À tout de suite.
Il y a une levée de bouclier au niveau de l'ECA, de tous les grands clubs européens, qui risquent d'avoir une bulle spéculative et expansionniste d'ailleurs. L'inflation risque d'être terrible. Elle l'est d'ailleurs à l'heure actuelle.
Merci, Manu.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h53, on parle du milliard de Vincent Labrune avec Daniel Riolo, Thibault Leplat, avec vous tous au 32-16. Est-ce qu'il nous prend pour des gogos en nous annonçant des sommes que l'on n'arrivera jamais que la Ligue 1 n'arrivera jamais à récupérer en droit de télé? On va accueillir Patrick tout de suite qui va donner son point de vue. Patrick, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Thibault, vous m'entendez bien?
Très bien.
Patrick, je te préviens tout de suite, le meilleur sujet de la soirée sera dans C'était pas dans l'after. Demain matin en podcast.
Ouais, okay, bon, ça on vient d'enregistrer, c'est pour ça qu'il dit ça. Patrick, donc toi, tu crois au milliard ou il nous fait une danse du ventre, Vincent Labrune?
Ah mais clairement, il fait une danse du ventre. Juste avant, je voudrais dire un tout petit truc. C'est assez hallucinant. J'ai envoyé un message sur Direct Studio parce que ce sujet m'agace. Et j'ai été rappelé en quelques minutes, je suppose, par Max, que je remercie, qui était très, très sympa.
Max est très sympa.
Mais Max est sympa. Max voilà. Est sympa. On dirait pas comme ça, mais il supporte Nantais et sympa. Bon,
quand il est là, parce qu'il a tendance à quitter son poste un peu souvent, il se fait rappeler à Laurent.
Alors en fait, moi j'avais fait. Je veux répondre à la question en trois points si c'est possible. Le premier, c'est la question des lots et de l'organisation. Je vais faire court. Je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi, mais la télé, la radio, c'est des rendez-vous quotidiens ou hebdomadaires qu'on noue avec le téléspectateur. Et la Ligue 1, depuis 20 ans, avait créé un rendez-vous le dimanche soir, le samedi après-midi à 17h ou le vendredi soir, quel que soit l'opérateur. Et en fait, aujourd'hui, ça a totalement été cassé avec la répartition qui a été faite sur le cycle 2020-2024, où en fait, on se rend compte que je parle sous votre contrôle, le meilleur match peut être tantôt le vendredi à 20h45, ou le samedi à 17h, ou le samedi à 21h, ou le dimanche à 21h.
C'est vrai, tu as cassé le rendez-vous, parce que souvent...
Ça fait longtemps que le téléspectateur, ou le consommateur, ou l'abonné n'est pas du tout la priorité de la programmation de Ligue 1 et de la mise en valeur de la Ligue 1. À chaque fois, c'est le proposer. Mais c'est le gros problème, et je l'ai déjà dit l'année dernière, dans l'affaire Mediapro, à chaque fois, ce qui est premier, c'est combien on va mettre d'oseille, est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui sera capable de surpayer ce championnat, et si on fait 3 abonnements, 4 abonnements, qu'il faut s'abonner à 12 000 plateformes pour pouvoir regarder un match,
en fait, pourquoi
c'est le cadet du souci de la Ligue. Alors que c'est dramatique, pour moi, je trouve ça dramatique.
Parce que la plupart des gens ne regardent pas tous les matchs. Nous, on regarde tous les matchs parce que c'est notre métier. Mais quand le dimanche soir, en prime time, justement, à 20h45, tu as Marseille 3, je pense pas qu'un supporter de l'OM ou de Lyon regarde ce match-là.
Parce qu'il y avait que Marseille à 20h. À chaque fois,
alors que quand tu mettais la grosse affiche et que tu avais effectivement, il y a toujours les 10 fameuses grosses affiches, mais le reste cette année, comme dit Patrick, ça a vachement été dilué. Ce qui fait qu'on a perdu cette notion de grosse affiche. On a perdu également en visibilité le samedi parce que même Canal le met sur des chaînes annexes. Donc le championnat a perdu en visibilité.
C'est eux qui proposent l'appel d'offres.
Mais simplement parce qu'ils n'avaient personne. Ils ont été obligés de se résoudre à accepter toutes les conditions parce qu'il n'y avait personne. Donc on est dans une consommation qui est beaucoup plus individualisée où chacun choisit un petit peu à la carte son match. Et c'est aussi pour ça que les audiences n'ont pas été bonnes. Quand j'essayais d'expliquer à Gilbert tout à l'heure que Prime... Auxerre Marseille ou t'as vu le nombre de fois où sur la fin de saison on a eu Marseille équipe en bois. Mais toi tu regardes, nous on a regardé, mais la plupart des gens ils regardent pas, à part les supporters de l'OM et de la petite équipe en question. Et encore, s'ils sont abonnés à Prime, il y en a pas des masses. Donc cette histoire de milliards, alors que les droits baissent un petit peu partout en Europe. Vincent Labrune, il essaye de nous faire croire qu'il va passer de 680 à 1 milliard.
Non, mais Vincent Labrune, il parle
de... Il essaie de t'y faire croire en disant qu'il va...
635 millions
en disant qu'il va miser sur les droits internationaux. En disant qu'il va miser sur les droits internationaux parce que les droits internationaux, ils sont à 80 et il veut les faire passer à 200.
Et les gens, ils vont acheter le droit de Ligue 1 où c'est toujours le même, il y a que le PSG qui gagne, le PSG qui est champion et il y a pas de concurrence.
Mais non!
Les gens, ils vont acheter, tu crois que les Allemands, les Espagnols, les Italiens, les Américains, ils vont acheter
le droit de la Ligue 1. Mais pire que ça, puisque le PSG n'a... Puisque le PSG n'a plus Messi,
on arrive, Patrick, t'inquiète,
risque de ne plus avoir Neymar, alors que c'était eux les produits d'appel pour le consommateur étranger qui se dit bah tiens, il y a un match français.
Il faut lire.
Oh, il y a Messi, je vais regarder.
Dans The Athletic, je conseille les gens de lire une interview de Richard Scudamore, qui était l'ancien PDG.
L'ancien patron de la Première Ligue.
De la Première Ligue, qui a un peu créé ce qu'est la Première Ligue actuelle, qui est à la retraite maintenant, qui explique très bien son métier. Et je vais te dire, on est à des années-lumière de Vincent
Labrune,
qui te parle de stratégie, de lutte d'influence entre les clubs, comment tu fais pour toi valoriser ta Ligue 1. Une de ces idées phares, c'est que on veut acheter qu'un produit qui est intéressant à acheter, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un championnat intéressant. C'est un championnat où tout le monde peut battre tout le monde. C'est pas juste un championnat où t'as deux types qui se tirent la bourre et les autres qui essaient de gratter un peu quelques places en Conference League. Non, c'est pas ça.
Patrick, à toi.
Merci, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça rejoint les analyses de Stéphane, de Daniel, d'Ouvrida Cherchour et d'autres sur ce sujet. Je vais prendre le lien qui est fait concernant les fonds. C'était mon deuxième point. 500 millions ou 80 millions. Pourquoi je dis 80 millions? Parce que quand vous faites un petit calcul rapide, au regard de l'indice UEFA, quand vous regardez le championnat néerlandais, qui est sixième de mémoire, leur droit est d'à peu près de 80 millions d'euros. Donc comment vous m'expliquez que le championnat néerlandais, il est à 80 millions, et comment vous allez aller voir, je vais être caricatural, Maxime Saada, Alex Green, Hervé Berrou, et tous les patrons de chaîne, en disant, bah, bonjour les gars, nous c'est 500 millions, ou voire même plus, parce qu'ils veulent 800 millions uniquement sur les droits nationaux, c'est pas possible. Et j'invite tout le monde, quelqu'un que vous connaissez, Pierre Maes, qui a publié La Ruine du football français, et qui le dit très justement, 500 millions, c'est le grand max. Canal n'a jamais réussi à rentabiliser la Ligue 1 quand elle valait 600 millions d'euros, c'est ce qu'ils avaient acheté entre 2005 et 2008.
Je précise.
De 500 millions paraît totalement hors sol. Et le troisième et dernier point, après je vous laisse parce qu'il est bientôt 23h, vous allez peut-être changer de sujet, c'était finalement le timing et les opérateurs. Le timing est hors sol. Pourquoi? Parce que l'UEFA a fait un appel d'offres sur la Ligue des Champions il y a un an, où la tendance économique était certes pourrie, mais moins pourrie que maintenant. Il aurait fallu que la LFP s'intègre immédiatement après l'UEFA pour lancer un appel d'offres. Et je me souviens de votre ancien boss, si je me trompe pas, Alain Veil, qui lors du cycle 2024 avait dit en 2018 à la Ligue qu'il fallait pas lancer l'appel d'offres trop tôt parce que les chaînes n'avaient pas d'argent. Là, on se retrouve dans la situation contraire où les chaînes de télévision auraient pu financer le championnat il y a 12 ou 18 mois, mais maintenant ça semble extrêmement compliqué. Et quand on voit que, et vous l'avez dit tout à l'heure, Apple a déjà signé avec Canal+, plus. J'ai appelé à des problèmes économiques. Bein Sport ne gagne pas un euro. Les pertes de Bein sont abyssales, c'est plus d'un milliard. Que Canal a quasiment 10 millions et demi d'abonnés en France métropolitaine et en Outre-mer. Sans le top 10, les buts de la Ligue 1 en clair et le match du samedi à 17h, le choix 2, moi je vois pas très bien comment la Ligue peut avoir plus de 500 millions. Ouais. Et oui, Vincent Labrune fait une danse du ventre.
Patrick, je trouve que tu maîtrises le dossier à merveille, bravo.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Mais surtout, il faut préciser que si on parle d'oseille et si on parle de ce problème-là et de ce qui peut intervenir au moment de l'appel d'offres de cet automne, c'est pour ceux qui trouveraient que c'est un peu abstrait, c'est que c'est juste l'argent qui va aller dans les caisses des clubs. Hein.
Donc c'est la qualité
de notre championnat. Parce que déjà qu'avec beaucoup d'argent, parce que nos clubs ont de l'argent, on se fait taper en Coupe d'Europe contre des équipes en bois. Qu'est-ce que ça va être si on en a moins?
Et plus la Ligue 1 coûte cher, plus on se fait taper en Coupe d'Europe. Donc il y a quand même un problème.
Oui.
Dans un instant, Karim Benzema au programme. 200 millions d'euros pour 3 ans de contrat. Est-ce totalement indécent? Est-ce que vous comprenez son choix? Lui qui était quand même dans un club extraordinaire, avec des performances extraordinaires. On en débat ensemble, sans oublier le reste de l'actu du jour, notamment Mercato. D'ici à minuit dans l'After, à tout de suite.
RMC, l'After Foot.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata...
Roussanou.
Il y aura la baraque et puis Marquitos.
Des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Ah, tous ces connaisseurs du football.
Les Barca, Marquitos. Ne sont plus dans le football. Hein. Tous ces gens ont quitté le football. Enfin, Michel Drucker. Ah si, il a été commentateur. On peut dire qu'il était
dans le très football. Longtemps qu'il a quitté le football, Michel Drucker.
La Coupe du Monde 86.
Oui, ça date un peu.
Coupe du Monde 86, il commente.
Hein. Il a démarré comme journaliste sportif.
Mmh. Bien sûr, il fait la Coupe du Monde 70.
70. Ah ouais, il a démarré.
Ah, Coupe du Monde 70, il commente.
Mmh. Vache.
Et 86. Entre les deux, non, mais...
Non, il revient pour 86 et il dit en fait que non...
86, il commente avec Roger Piantoni.
Pas sûr qu'il était vraiment connaisseur. Hein.
Le France-Brésil, c'est que c'est lui qui le fait en direct. Hein. Ouais. C'est pas Roland Larquet. Hein. Mmh. Voilà, petit point histoire.
Voilà. Il va bien, en tout cas, il va mieux.
Il va mieux.
Alors, l'Arabie Saoudite, nouveau centre névralgique du football peut-être très bientôt. On en parlera demain soir. On fera un peu de géopolitique du sport. Mais là, on va se concentrer sur Benzema. Il a été donc présenté ces dernières heures à Al Ittihad. Alors, Al Ittihad, c'est un club qui est basé à Jeddah. Jeddah, c'est une ville qui est au bord de la mer Rouge. Oui, d'ailleurs, il y a des fonds sous-marins magnifiques, hein, si vous aimez la plongée. Voilà. Je sais pas si Benzema peut se mettre à la plongée.
Je sais pas s'il est parti là-bas pour la plongée. Mais...
Non, je suis pas sûr. Mais enfin bon, il aura les moyens d'en faire, en tout cas, s'il a envie.
Ah oui. Oui.
Donc, l'entraîneur s'appelle Nuno Espirito Santo.
T'as passé ton diplôme pour ça?
Pardon?
T'as passé ton truc, là, comment s'appelle, le brevet pour faire de la plongée?
Non.
C'est quand tu t'entraînes dans la piscine, tout ça, là.
Non, j'ai pas fait ça. Moi, tu fais faire de la plongée sans diplôme.
Tu peux savoir, là, qu'il y a des fonds marins, machin, si t'y es pas allé.
Parce que je suis allé.
Mais tu dis que tu fais pas de plongée.
Ah, mais j'ai fait de la plongée là-bas, à Jeddah.
Et tu dis que t'as pas
de plongée, c'est à partir de combien de mètres, en fait?
T'es pas obligé d'avoir un diplôme pour faire de la plongée?
Bah si, pour descendre avec la bouteille, il faut avoir
un diplôme. Quand tu fais de la plongée, t'es pas obligé d'aller à 50 mètres.
C'est combien? C'est à partir de combien?
Ah, t'as fait du snorkeling, alors?
Non, tu peux aller à 3-4 mètres.
Et l'autre, il parle de plongée.
Mais non, mais t'as pas de palier de décompression. Bah, va, Daniel. Bon,
oui, enfin, t'es resté au bord avec un tuba.
Non, mais lui, il est gentil. Il sait pas faire de crawl. Il va maintenant m'expliquer la plongée, les diplômes et les paliers de décompression.
Mais la grande différence, c'est que moi, je me suis pas vanté de connaître les fonds marins de Jeddah.
Eh ben, moi, je ne connais pas tous les fonds marins de Jeddah, mais je dis que c'est magnifique.
On a été pris pour Cousteau.
N'exagérons rien quand même. Et je pense que Cousteau te l'aurait conseillé.
Est-ce qu'il avait son brevet de plongée? Ouais, bah oui.
Ah, ouais, je pense que j'espère.
Plongée, Cousteau.
Ça existait déjà à l'époque, le brevet?
Je sais pas, mais il savait en faire.
Comment s'appelait son bateau là qu'on voyait quand on était gamin partout?
Calypso,
non?
Calypso, bien sûr.
Les gars, qu'on voulait savoir un truc.
Calypso. Bon. Et Al Ittihad.
Je suis pas très fond marin, moi, je m'en fous un peu.
Par contre, Cousteau, ouais.
Oui, tu es plus plage, on a compris.
Oui, c'est plus transat. Sable, plus transat sable que fond marin. Oui.
Voilà. Pendant que tu fais la crêpe, il y en a qui font du sport. Bon, chacun ses choix.
Ah, c'est du sport de faire du snorkeling, c'est du sport.
Oui.
Genre, t'es là au bord avec ton tuba, tu regardes les coquillages là, et c'est du sport.
Tu vas venir nager avec moi 5 minutes, tu vas voir que c'est autre chose que
nager.
Le snorkeling, tu nages.
Même le snorkeling, tu nages. Si tu regardes en dessous.
Ouais, mais tu nages quand même.
Prends toi un aquarium à la maison et regarde et mets-toi derrière l'aquarium, c'est pas pareil.
C'est de la natation en fait, c'est une sorte de natation.
Non, souvent tu nages pas beaucoup parce que tu observes. Non, mais lui, sport.
Ça, c'est et snorkeling quand il va en Italie, oui, tu vois, où il y a zéro poisson d'ailleurs. Je sais pas si
j'en fais pas, moi, j'en fais pas. Ouais, je me vante pas d'en faire. Je me vante pas d'être un aventurier, moi.
Moi non plus.
Un peu quand même.
Non, je m'en vante pas.
Bon, donc il est à Jeddah.
Donc il est à Jeddah, à l'Ittihad, qui est surnommé, c'est pas une invention, hein, le club du peuple.
Ah ben c'est pour ça qu'il est allé là-bas. Là. Voilà. Il a signé le contrat.
Bon,
il a gagné le ballon d'or du peuple. Il a signé le contrat du peuple à 200 millions et il va dans le club du peuple.
Justement, on va en parler avec Thibaut. Mais la question qu'on veut poser ce soir, parce que finalement, vous qui êtes fan de Benzema, du Real, comment vous vivez tout ça? Est-ce que vous comprenez ce choix? Est-ce que vous vous dites c'est pas possible qu'il nous plante pour aller dans ce championnat pourri, en gros, prendre l'oseille? Enfin, quel est votre avis de fan de foot, de fan de Benzema? On vous attend au 32-16 parce qu'on veut mettre ça sur la table. Nous, évidemment, on est dans le foot toute l'année, et on entend des sommes par-ci par-là, absolument incroyables. Finalement, souvent, ça nous traverse ou ça traverse l'after comme ça, sans même que finalement on percute vraiment ce que ça représente. Enfin, on parle de 200 millions d'euros sur 3 ans.
Thibaut va nous faire un avis
acceptable.
Va nous faire un avis philosophique d'oseille.
Eh ouais.
Oh là 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 là. Allez, on y va. Allez. Essayez d'entendre ça.
Jingle le plat et ensuite on entendra le débat ensemble.
Allez.
Dans ce cas de figure-là, plus tu rates, plus tu rates, en fait.
Ouais. Ouais. Je sais pas si ça concerne ton avis.
C'est parti sur, en tout cas, sur des
gros plans. Nous t'écoutons.
Oui, alors moi je voulais proposer un avis alors sur le choix de Benzema et peut-être aussi pas vraiment sur lui, sa justification, parce que lui en réalité n'a pas communiqué là-dessus, on sait pas vraiment ce qu'il a dit, pourquoi il y va. En revanche,
ne communique jamais, voilà, à part par message énigmatique sur Insta.
Il communique, mais il communique pas comme on voudrait qu'il communique en vérité.
C'est ce que je viens de dire, par message énigmatique. Voilà,
il n'avait pas de quelques larbins qui donnaient un peu leur avis à sa place. Non, là, on n'a pas encore eu trop de justifications. En revanche, on a eu une espèce de semi-polémique qui a démarré sur ce sujet-là, en disant finalement, soit d'un côté c'est indécent de gagner autant d'argent en si peu de temps alors qu'il est dans le plus grand club du monde, et de l'autre côté le contraire, en disant mais voyons, un contrat en or comme ça. C'est humain. C'est humain. Vous-même, vous le feriez. Ça, c'était l'argument de d'Abi Bey. Alors moi, c'est ce que j'avais envie de dire, c'était sur ce que
Abi Bey est allé plus loin. Bey, on y reviendra.
Plus élaboré, c'était il faut penser à la reconversion.
Et c'était pas une somme. Il nous a pas
une argumentation, très franchement.
Mais il y a eu l'idée. Et quelque chose qui traverse un peu tout le monde, parce que c'est une discussion qu'on peut tous avoir, qu'on a eu nous à la rédac aussi tout à l'heure. C'est une discussion qu'on peut avoir à table, un déjeuner à midi. Et toi, est-ce que tu partirais? Pour combien? Quel
pour
est
combien tu iras en Arabie Saoudite, Daniel?
Moi, pour un dixième de Benzema.
Bah, c'est ton prix.
Un dixième, c'est quoi? C'est 20 millions?
Moi, ce que je voulais dire, si vous permettez.
T'as vu comme j'ai progressé?
Un dixième.
Non, ce que je voulais dire,
là, même que pour un centième.
Peut-être que pour deux, je réfléchis aussi. Bah après, ça dépend. Pour faire quoi? Pour y rester combien de temps?
Avec les tickets resto, quoi, ça passe.
Pour y rester longtemps?
Pour faire de la plongée comme ça.
Pour faire l'after là-bas pendant combien de temps?
Pour faire, je sais pas, un boulot, quoi.
Jusqu'à la fin de carrière, pour les 10 ans qui nous restent.
Ah non, là, tu signes des contrats. Il a signé 3 ans, Benzema.
Ah, pour 3 ans? Je réfléchis
même
pas.
S'il fait 3 ans, parce qu'on sait pas s'il va rester jusqu'au bout.
Bon, en plus, Thibaut, de t'interrompre.
En pleine scène de ménage, pardonnez-moi.
Allez, vas-y.
Non, je disais juste que, justement, ce qui m'intéressait, c'était cet argument-là, qui consiste à dire, c'est humain, après tout, on peut tous, tout le monde en aurait fait autant, tu en aurais fait autant, et cette volonté de vouloir absolument demander l'approbation. De dire, a priori, finalement, on est un peu obligé. On l'a dit là. Si on nous propose beaucoup, bon, on peut pas refuser. C'est la fameuse offre qu'on peut pas refuser dans le parrain. Donc c'est cet argument qui est en matière de football est toujours un peu bizarre, parce que ça voudrait donc dire que les footballeurs sont en fait des espèces de robots qui réagissent en fait à des stimuli extérieurs. Ah, il y a beaucoup d'argent, donc ils sont obligés d'y aller. Ils sont obligés d'accepter une offre comme ça, aussi mirobolante soit-elle, ils sont obligés de l'accepter. Alors moi, ce que je trouve très gênant là, c'est pas qu'il l'accepte. Arrêtez, je m'en fiche, mais pour lui, moi, j'ai pas de leçon de morale à donner là-dessus. En revanche, ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est la volonté de vouloir absolument mettre tout le monde dans le même panier. Et c'était l'argument d'Abib là-dessus, c'est de consister à dire, ah bah oui, mais vous en feriez autant. Après tout, il faut penser à la reconversion, comme si c'était une nécessité. Voilà. Et j'ai envie de rappeler quand même une chose essentielle, c'est que personne n'est obligé d'accepter une offre autrement que par lui-même. C'est-à-dire que d'abord, le malheur, comme dirait Sartre, le malheur, c'est qu'on est libre. Le malheur, c'est qu'on est, libre d'être un salaud, on est libre d'être cupide, on est libre d'être quelqu'un généreux. Après tout, on fait un peu ce qu'on veut. Et de vouloir dire absolument, de trouver des justifications extérieures qui consistent à dire, ah ben non, on serait bien obligé que les autres, chercher l'approbation des autres, et peut-être plus qu'une approbation, peut-être une absolution, je trouve ça un peu limite. Donc, qu'il le fasse, pour des raisons qui lui appartiennent, tant mieux. Moi, j'ai absolument aucun commentaire à faire là-dessus. En revanche, qu'on présente ça comme étant un choix nécessaire, et là, peut-être on va pas être d'accord, mais comme un choix nécessaire et que tous on en aurait fait autant, bah non, tous on en aurait pas fait autant. Chacun fait un peu ce qu'il veut, et le malheur, c'est qu'on est libre, donc on est libre de faire des mauvais choix aussi. Pour ma part, je pense que c'est un mauvais choix.
Daniel, choqué, pas choqué,
Alors,
blasé, pas blasé.
Déjà deux rectifications sur l'avis de Thibaut. Donc l'offre qu'on peut pas refuser dans le parrain, bah c'est tu dis oui ou on te bute. Donc c'est pas exactement la même
chose. Oui, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'en réalité c'est une offre que tu peux pas refuser, c'est que c'est pas une offre. Donc tu présentes ça comme les gens ils sont des robots substituables.
Et deuxième remarque sur Jean-Paul Sartre, si t'es un communiste, on peut également s'en passer, surtout quand il parle de liberté.
Il a été philosophe avant d'être communiste. Hein,
surtout, surtout quand il parle de liberté.
Lisons l'être et le néant tous les deux.
Surtout quand il parle de liberté
mots,
et
lisons l'existentialisme
et l'humanisme. Visiblement, après, ne l'intéressait après, pas trop.
Volontiers, n'est-ce on parlera de stalinisme, si tu veux.
Et permets-moi de venir au secours de Thibault pour te dire que Jean-Paul Sartre est largement revenu de ses amitiés communistes sur la fin de sa vie.
Alors vraiment sur la toute fin, parce que pour le reste, ceux qui n'étaient pas communistes étaient des chiens.
C'était d'abord.
Voilà, nous n'oublierons jamais cette phrase de Jean-Paul Sartre, monsieur.
C'était d'abord un très grand philosophe.
Oui, d'accord.
Bon. Les Lettres et le Néant de 43. Je t'invite à lire, ça fait 800 pages, c'est extrêmement difficile à lire. Et quand tu t'y penches, tu vois quand même que c'est quand même quelqu'un qui réfléchit. Après les choix politiques, les choix de carrière des uns et des autres.
Revenons aux choix de carrière.
Les choix de carrière de Jean-Paul Sartre, on n'est pas obligé de les parler.
Je vois pas grand-chose en fait à déplorer à ce choix. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si dans l'appréciation qu'on a tous de ce choix, la donnée destination est importante ou pas. Je trouve que l'honnêteté devrait nous pousser à dire, est-ce qu'on critique cette oseille et la destination parce que c'est l'Arabie Saoudite, avec ce que ça sous-entend comme... comment dire, sous-entendu politique, le fait d'aller dans ce type de pays-là.
Il est fonctionnaire parce que c'est un homme qui appartient à l'État.
Ce type de pays qui propage telle ou telle valeur. Est-ce que l'honnêteté ne devrait pas pousser à dire qu'on est gêné par ça? Est-ce que je suis gêné par ça? Moi, personnellement, pas vraiment. En fait, je vais te dire, je m'en fous un peu. Tu parlais de liberté, justement, en parlant de Sartre. Je trouve qu'un type... il a 35, 36 maintenant?
36, ouais.
Voilà. Fin de carrière. Il a tout fait. Il a tout gagné. Il y a que l'équipe de France qui leur a raté comme rendez-vous pour les événements conseils. Inutile de revenir dessus. Le gars, il veut aller se gaver le plus possible d'oseille. Écoute, fais-le. Est-ce que je dois attendre de Benzema qu'il reste en Europe, qu'il termine sa carrière, minablement sur le banc du Real où je pense qu'au final, je sais pas ce qu'a sa phrase à Benzema. J'aurais voulu, parce qu'il paraît que limite, dans deux, trois larmes, il aurait dit j'aurais voulu terminer ici.
Oui, mais il a dit ça.
Mais il aurait voulu terminer ici comment?
Est-ce que ça n'aurait pas eu plus de panache qu'il reste à Montréal peut-être et qu'il vienne à Lyon?
Mais non, mais en fait, alors, excusez-moi, mais ce fantasme de je retourne là où j'ai grandi, qui l'a fait en fait? Qui a fait ça?
La Cazette?
Mais il n'a pas fini, la Cazette quand même. J'espère qu'il
n'est
pas revenu comme un retraité quand même. Il n'est pas arrivé à 35
Gamero,
ans en bout de piste.
T'as encore mieux que Jean-Paul Sartre.
Ah. Donc, c'est espèce de fantasme, tu retournes là où t'es né, finalement, il n'est pas si répandu que ça, malgré tout, dans le foot. Et puis, pardon, mais à Lyon, donc toi, tu dis, c'est quoi? C'était le fantasme, il revenait à Lyon, donc il foutait dehors la Cazette, alors?
Ouais, lui, tu fais ce qu'il veut.
Il foutait aller dehors la Cazette, et puis, quelle est sa motivation encore?
Après, simplement, s'il faut le justifier, effectivement, il faut aussi dire qu'il
est-il encore motivé? A-t-il encore envie de s'entraîner dur pour mettre des buts? Est-ce qu'il a encore envie de ça? On a le droit aussi d'accepter que peut-être Benzema, ayant tout gagné, ayant peut-être vécu cette saison de façon un petit peu difficile, ils se disent, moi j'ai plus rien à jouer, j'ai plus rien à gagner, j'ai plus envie de rien faire, j'ai pas envie d'être entraîneur, j'ai pas envie d'être dirigeant, je veux juste me la couler douce et je vais pas refuser cette somme d'argent. Le choix, moi, j'ai pas envie de l'en vouloir.
Après, après, les 12, même Daniel,
attends, Daniel, si quelqu'un vient me dire, moi, le seul débat,
tant le choix on va revenir là-dessus, tant le choix de Benzema pour l'Arabie Saoudite que le choix de l'Arabie Saoudite pour Benzema n'est un choix absolument pas anodin.
Ah, bah alors, pas, voilà. alors soyez honnête.
Je suis malhonnête, c'est ce que je te dis.
Tu n'as pas été honnête.
Pourquoi je vais être honnête?
Parce que je vais t'expliquer. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si quelqu'un vient me dire, moi je veux bien.
Il est pas anodin, pourquoi?
Non, attends, mais laisse-moi venir. Je veux bien ouvrir le débat avec ceux qui vont dire, moi Benzema, il va prendre l'oseille d'un pays qui bute des journalistes, qui ont telle et telle valeur.
Je ne parlais pas de ça. Après, je fais un cours de deux heures.
Tu parlais pas de ça.
Non, je parlais de l'argument des gens qui disaient que on est bien obligé d'accepter une offre, qu'il y a des offres qu'on peut pas refuser. Je répondais juste à cet argument-là. Et là, je trouve que c'est quelque chose
d'un argument stupide. Qui a dit ça?
Habib Bey. Et tout à l'heure, on en a parlé au bureau. Donc, je répondais à cet argument.
Mais t'en parles au bureau avec des mecs comme nous. Mais nous, on peut pas refuser 2 millions. Alors, tu penses pas que 200 millions, on va pas les refuser. La question, c'est le joueur de foot qui est déjà milliardaire et qui veut se gaver encore.
Pourquoi tu veux pas refuser?
Mais s'il a envie de les prendre, on va pas lui reprocher.
Il y a des motifs qui font que tu peux pas refuser. J'ai répondu à Bey en disant, moi, j'ai jamais pu accepter ça parce que je n'arriverai pas à vivre dans un pays comme ça.
Donc on en revient à ce que je te disais.
Non, pour des questions politiques, je veux pas.
Alors dites la vérité. Dites que c'est pour ça.
Je sais pas si c'est pour ça.
Tous ceux qui partaient en Chine pour 30 millions en fin de carrière, comme l'avait dit Cannavaro, Marcelo Lippi, est allé se gaver là-bas. Genesio, il est pas parti se gaver en Chine.
Qu'est-ce qu'ils ont
pensé? Genesio, il a mis à l'abri 2-3 générations. Il y a quoi? C'est la démocratie, la Chine. C'est formidable, la Chine, c'est magnifique.
On a dit la même chose et c'était peut-être encore pire quand on est parti en Chine.
Soit vous me dites, je suis choqué que le mec aille prendre de l'oseille dans un pays qui a telle et telle valeur et qui politiquement se comporte comme ça. Soit on me dit ça et je dis, je veux bien débattre avec vous et effectivement, on peut trouver qu'il y a à redire sur le choix. Mais sinon, s'il n'a pas envie d'être en heure, s'il n'a pas envie de 1, mais pourquoi il devrait rester en Europe?
Il veut
construire 20 villas à Bron, à Los Angeles, à où il a envie, mais qu'il fasse ce qu'il a envie de faire.
On continue le débat, on a beaucoup d'appels. Mehdi veut intervenir, Nadir.
Après, s'il y va à 25 ans, je peux trouver regrettable que pour sa carrière,
beaucoup de
mes
fonctionnaires d'un gouvernement comme celui-là.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h24, Thibault Leplat est là, Daniel Riolo est là, le sujet Benzema enflamme Direct Studio et le 32-16. Je vous lis quelques messages sur Direct
pourquoi
Studio.
Pourquoi ça enflamme les gens, ce truc-là?
Dylan nous dit, Daniel, tu n'y connais rien, tu peux très bien aller à moins de 100 mètres de fond et voir des choses extraordinaires sous la mer.
Mais moi, j'ai jamais dit que j'y connaissais quelque chose.
Sinon, je n'en fais pas
du snorkeling.
Jean-Michel te dit, Daniel, l'existentialiste est un humaniste, Daniel, et tu comprendras que sa définition de la liberté est incompatible avec le marxisme. Thibault te confirmera.
Néanmoins, ça ne l'a pas empêché de défendre ce régime.
Il a essayé de le faire, mais il n'y a pas
arrivé. Néanmoins, ça ne l'a pas empêché de défendre ce régime et de dire que tous ceux qui ne l'étaient pas étaient des chiens.
Il est allé voir sur place et il en est revenu Marie, comme on dit.
Eh bah, très bien.
Fred, intéressant.
Que ceux qui défendent encore cette idéologie aujourd'hui.
On reparle de foot.
Il faut quand même dire, on ne peut pas tout mettre dans le même palier. Sartre est aussi quelqu'un qui a une œuvre philosophique immense qui est reconnue dans le monde entier.
Je sais que
c'est son engagement politique, il est ce qu'il est. Effectivement, c'est son
engagement politique. Tu as raison.
On a le droit de se tromper. Mais juste, il ne faut pas empêcher les gens de lire Sartre parce qu'il a dit.
Il ne manquerait plus que ça.
Non, je dis ça pour clarifier.
Je n'ai pas dit ça.
Ça intéresse peut-être quelqu'un. Lisez-le si vous pouvez. Ça reste un immense écrivain, un immense philosophe.
Fred nous dit, résume assez bien la situation, je trouve. Il nous dit, écoutez, la liberté qui découle de l'indépendance financière fait rêver, et fait tellement rêver, et qu'elle est impossible à défendre au fond. Rappelons que la majorité travaille pour, en gros, 1500, 2600 euros par mois, alors que le gars, lui, va gagner des centaines de millions avec ses pieds. Évidemment que c'est indécent, mais le monde où nous vivons est comme ça, donc c'est indéfendable. Voilà ce que dit Fred.
Et puis, je comprends pas ce qui est indéfendable.
Parce qu'il dit, en fait, ça fait rêver, en fait. Ça active des choses en toi, tu te dis, ah ouais, bah, en gros, j'aimerais bien être à sa place, donc au fond, bon, bah, Ouais,
on tolère beaucoup plus facilement un footballeur que d'un
chef. C'est comme le gars qui va faire son euro million, puis qui pendant 5 minutes se dit je vais gagner tant de veilles. Et au final, bon, bah voilà, il gagne pas.
Mais moi, je pourrais faire un sondage, je pense que la majorité des gens sont plutôt d'accord avec Benzema. C'est-à-dire qu'ils trouvent qu'il a raison de.
On va avoir en 32-16. Et puis, on me fait une petite liste de joueurs qui sont quand même revenus dans leur club. Duga est retourné à Bordeaux, nous dit Sweet.
Je ne m'en souvenais même pas.
Et Buffon le fait à part, nous dit.
Mais est-ce que au fond c'est toujours une bonne chose si le mec revient qu'il est cramé et qu'il apporte rien, à quoi ça sert?
Certes, on va dire que c'est romantique. Voilà.
Oui, et puis c'est quand tu vieillis, t'as envie de revenir, de retrouver ta jeunesse, c'est un vieux réflexe.
Exactement.
De vieillard.
Thibaut et moi, on va finir à Strasbourg.
Voilà,
on le sait déjà.
C'est vrai.
Allez, Nadir est là au 32-16.
Oui,
salut Nadir.
Salut, bonsoir Nadir. Tout le monde, ça c'est le merde.
Salut.
Bon, oui, non, c'était pour revenir sur.
On t'écoute.
C'est le transfert du moment, Karim Benzema. On transfère à l'Ittihad.
T'inquiète, il va être suivi par beaucoup d'autres.
Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Mais on peut déjà faire. On peut déjà parler de la jurisprudence Cristiano Ronaldo. Ça n'a pas fait beaucoup d'écho lorsqu'il est parti là-bas, alors qu'il avait encore des options en Europe.
Non, en Europe, il avait plus grand chose, hein. C'était terminé. Ah, après Manchester United, il y a plus personne en voulait.
Non, mais il aurait pu aller dans un club de moindre. Il aurait pu aller au Sporting, j'en sais rien.
Mais non, mais arrêtez avec ça, vous êtes super méprisant.
De quoi?
Comment tu veux que Ruben Amorim, il voit arriver Ronaldo, ça lui fout tout son système de jeu en l'air, il dit ah ouais, je suis obligé de faire jouer la star parce qu'il a commencé là, je le fais jouer. Moi je trouve que c'est très méprisant.
C'est juste que c'est eux qui le disent. C'est Cristiano Ronaldo, il a dit plusieurs fois qu'il rêverait finir sa carrière au Sporting.
Mais c'est mytho, mais c'est pour faire rêver les midinettes.
Dans ce cas, pourquoi ils le disent alors?
Mais pour faire rêver les midinettes.
Désolé,
pour raconter des histoires.
Reprenons la parole à Nadir.
Écoute, il prend les gens pour des imbéciles, t'es pas obligé de te mettre dans l'eau des imbéciles.
Non, moi je le prends pour quelqu'un d'intelligent
Daniel, dans le fond, sur la capacité sportive du joueur, je suis d'accord qu'il avait peut-être plus trop de solutions en Europe et que c'était plus qu'une aubaine d'avoir un chèque qui se présente comme celui-ci. Mais pourquoi on en fait toute une histoire alors que c'est Karim Benzema et que c'est un joueur comme un autre qui vient de terminer sur une très bonne note en Europe avec 30 buts cette année? Je pense qu'il, comme le dit le communiqué du Real Madrid, il a le droit de décider de son avenir.
Parce que c'est pas n'importe quel joueur et pas n'importe quel chèque et pas n'importe quel championnat.
Oui, bien sûr, bien entendu. Mais qu'est-ce que t'entends par là?
Bah, j'entends que aller en Arabie Saoudite à ce moment-là, étant Karim Benzema, évidemment, ça soulève toujours des interprétations. Moi, je t'ai dit ce que j'en ai pensé tout à l'heure. Moi, je suis pas
absolument
pas
contre.
Mais d'un point de vue politique, l'Arabie Saoudite, c'est quand même en ce moment un pays qui essaie de redorer son image. Il va être salarié de l'Al-Ittihad. L'Al-Ittihad, c'est un club qui appartient au gouvernement. Donc, il va être fonctionnaire gouvernement saoudien. Mais ça veut dire quoi?
Public Investment Fund.
Oui, mais il va être fonctionnaire dépendant du gouvernement saoudien. Ça veut dire que t'es pas juste un joueur de football quand tu fais ça. Et ça rentre aussi en ligne de compte. Juste pour terminer ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça rentre en ligne de compte qui, pour moi, si ça m'était arrivé, mais je n'oblige pas les autres à le faire, c'est moi la raison pour laquelle je ne l'aurais pas accepté. Parce que le fait de dépendre d'un gouvernement comme le gouvernement saoudien, tu sais pas jusqu'à où ça peut t'emmener.
Oui, parce que la précision, ça c'est une précision importante qu'on n'a pas fait, c'est que on expliquera ça dans cette semaine. Mais en fait, en Arabie Saoudite, c'est l'État qui est devenu majoritaire dans les quatre gros clubs, dont Al Ittihad, Al Hilal, Al Nasr, le club de Cristiano. Donc en fait, concrètement, c'est l'État qui paye. C'est pas les clubs.
Il est donc fonctionnaire.
C'est pas un homme d'affaires riche. C'est pas voilà. Tu vois, c'est l'État.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En gros que vous vous mettez dans une posture morale qui consiste à dire que Benzema
sur politique.
Benzema ne devrait pas aller jouer en Arabie Saoudite parce qu'il devient l'employé d'un État.
Je dis qu'il fait son choix, mais il faut être conscient de ce qu'il fait.
Laissez-moi finir la phrase.
Fait partie du choix.
Il va travailler pour un État
qui découpe des journalistes dans une
ambassade,
qui n'est pas une démocratie, dont les valeurs ne sont pas conformes aux nôtres. En gros, c'est
ça fait partie du choix.
Je dis pas qu'il doit pas le faire. Je dis que c'est ce qui arrive, c'est ça. Qu'il faut regarder la réalité, c'est ça.
Donc on va vite être confronté à. Alors, je dis pas que ce que vous dites est pas recevable, hein, pas du tout. Mais effectivement, ça va pas être le premier, parce que je répète que ceux qui ont fait la Chine avant, c'est la même chose. Ceux qui ont fait le Qatar à une époque. Leboeuf, Duga, Louis, ils sont tous allés bosser pour le Qatar. Bon, c'est la même chose. Il y a un cas qui est
pas vraiment similaire, mais qui a fait beaucoup parler récemment dans un autre sport, c'est Hurtel qui est parti jouer en Russie et qui a donc été dans la foulée privée d'équipe de France. Ça a fait des débats. Oui, il faut pas mélanger sport, politique. C'est cet après-midi Svitolina qui ne veut pas serrer la main de Sabalenka.
Ça fera débat au jeu de Paris 2024.
Oui, c'est pas pareil, Daniel. Là, t'es salarié directement du gouvernement.
Donc, t'es salarié directement du gouvernement, donc ça ne marche pas pour Hurtel. C'est la Chine et le Qatar, ça tu acceptes comme analogie?
Dans le cas d'Hurtel, attention, parce que c'est Zénith Saint-Pétersbourg, c'est Gazprom, oui, donc c'est aussi l'État russe.
Non, mais. Oui, pas, donc, mais avec un État qui indirectement est en guerre. Oui,
je répète que j'ai pas dit que j'étais contre sa décision, je décris simplement une situation.
Moi,
je
dis la situation. Hurtel, c'est beaucoup plus gênant.
Moi, je suis contre l'équipe de France. L'argument qui consiste à dire que ce n'est qu'une affaire d'argent.
On fait des affaires avec eux,
l'argument qui consiste à dire que c'est qu'une affaire d'argent est un argument qui est fallacieux. Ce n'est pas qu'une affaire d'argent quand tu vas signer pour
C'est une affaire de quoi alors ?
Il y a une affaire politique pour le gouvernement du Qatar.
Il fait pas de politique lui.
Mais il en fait. J'allais dire à
comme Messi. Messi, il bosse carrément pour eux, il fait la pub pour le pays, Messi.
Exactement, mais moi, je trouve aussi,
en fait, tu te retrouves.
Dernier truc, il y a un aspect religieux. Jeddah, c'est à quelques kilomètres de la Mecque aussi. Ouais. Et quand tu es musulman, quand tu vas en Terre Sainte,
pour lui, c'est
important. Ça fait partie aussi une dimension de la culture. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on aimerait bien l'entendre. Benzema qui nous explique.
Mais il n'a pas envie de te l'expliquer, c'est sa vie.
Alors, dans ce cas, ça sert à rien de faire des conférences de presse ou faire des posts Instagram.
Laissez la parole à Nadir, s'il vous plaît. Engagez-vous à fermer vos bouches pendant 30 secondes.
On va pas s'engager sur les velléités religieuses d'un joueur ou autre, mais ou sur les velléités politiques, il n'en a aucune. Il y va, on sait très bien qu'il y va principalement dans 90% du cas pour le chèque. Comme le dit Daniel, c'est difficilement refusable.
C'est le chèque du peuple quoi.
Bah, le chèque du peuple ou pas, c'est le chèque individualiste, c'est
difficile à refuser si tu as
Nadir, à la limite, c'est difficilement refusable pour toi, pour Thibaut, pour Gilbert, pour moi, pour lui, c'est refusable puisque de l'oseille, il en a déjà une tonne.
Mais est-ce qu'il en a autant que Messi Cristiano en ayant été ballon d'or?
Après, c'est pas ça le problème.
Mais Nadir, il y en a assez.
C'est pas ça le problème. Après,
si lui il estime qu'il veut. Enfin, en fait, je comprends même pas pourquoi. J'aime pas trop la posture morale par rapport à l'argent. Je vous répète que la seule discussion possible et que j'accepte, moi, c'est tu ne vas pas dans un pays qui ne correspond pas. Et après, si lui il te répond, oui, mais moi ça me gêne pas et j'en ai rien à cirer votre posture morale. Et moi, ce pays. C'est un pays qui politiquement est ami de la France avec lequel on fait des affaires et qui même diplomatiquement diplomatiquement la France entretient des rapports avec
l'Arabie Saoudite quand même. Vous savez qui est le plus gros acheteur d'armes à la France?
L'Arabie Saoudite.
Donc on va vite être confronté à des énormes hypocrisies. C'est pour ça que je me passerai de tout jugement concernant la décision de Benzema.
Pardon. Qui est hypocrite,
Daniel? Allez, pause. Mehdi dans quelques instants, je remercie Nadir.
Mehdi
est de Bron. Il a la parole, il est de Bron et c'est le bled de Benzema dans la banlieue lyonnaise. Enfin, bled, non, c'est une ville.
Bon, oui, bled.
Bled, je dis ça.
Parce qu'à un moment, c'est petit, on veut dire bled.
Oui, mais là, c'est pas un bled, c'est pas petit, c'est une ville.
Pas petit, Bron.
Ah, bah Bron, non, c'est gros.
Bron, c'est une grande ville. À partir de combien d'habitants on dit petit?
Le bled, c'est tout ce qui n'est pas la ville, en réalité.
Ressort-Angis,
non, bled,
ou pas?
Je dis bled, c'est 1000 habitants.
C'est la campagne.
Attends, faut que je vois si Bron, c'est plus grand.
Bron, c'est 40 000 habitants.
Ah oui, c'est grand.
40 000 habitants?
Bien sûr.
Ah, je pensais pas si grand.
Non, il n'y a pas 1000 habitants à Ris-Orangis.
Il y a combien de Ris-Orangis dans Bron? Ça fait combien de...
Bah, deux, parce que c'est 23-25 000 habitants.
Deux Ris-Orangis. À Bled, c'est par exemple, je sais pas, je peux donner comme exemple.
Ah, moi j'en connais des Bled. Étré-Saint-Denis, Moivillers, Canly.
Par exemple, Tintvillers.
C'est en dessous de 2000 habitants.
Tintvillers à côté d'Agno, dans le Bar, hein. C'est un Bled.
Ah, d'accord.
Voilà. Très bien. Allez, okay. À tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit, l'after-foot.
Gilbert Bribois.
23h39, Daniel Riolo et là Thibault Leplat. Et là, on va conclure sur Benzema avec Mehdi, qui donc est de Bron, à côté de Lyon. Salut Mehdi.
Bonsoir Gilbert. Bonsoir Daniel. Bonsoir Thibault.
Salut Mehdi. Tu confirmes que Bron n'est pas du tout un petit bled?
Ah non, Daniel, tu m'as fait mal là, en disant ça. Non, ouais.
Moi, j'ai posé la question, je ne savais pas.
On n'est pas Saint-Etienne quand même.
Ah, ouais, là, d'accord. Là, c'est toi qui vas faire mal alors.
Bon alors, ton avis là sur le départ de Benzema, l'homme de Bron en Arabie Saoudite?
Alors bon, bah, moi peut-être que je vais peut-être pas être objectif à 100%, mais bon, je vais quand même essayer de l'être. Déjà dans mon commentaire, je voulais juste revenir sur une petite formule en fait, la formule Ballon d'Or du peuple. Moi, je voulais juste revenir un peu là-dessus parce que
je pense qu'elle a mal été perçue par.
Bon, on n'a pas tout compris, à vrai dire. Si t'as compris,
oui, en fait, ça n'a pas été dit pour être compris, à mon avis.
Oui, oui, après, je peux comprendre, mais bon, connaissant un peu l'entourage Benzema, tout ça, en gros, le peuple, c'est un peu ceux qui l'ont toujours soutenu. Hein. Ça n'a rien à voir avec les classes sociales ou quoi que ce soit. C'est vraiment ceux qui l'ont soutenu pendant la période où il n'était pas en équipe de France, parce qu'on sait que c'était. C'est un point noir de sa carrière.
Donc, en fait, fallait comprendre, le peuple, c'est ses amis, quoi, son entourage. Quoi.
Pas que, honnêtement. Hein.
Bon, tous sa fanbase, quoi, d'accord.
Voilà, exactement. D'accord.
Il faut dire merci à ses fans, en fait, il ne faut pas dire le peuple, dans ce cas-là.
Oui, mais bon, après, ouais. Voilà.
Les mots ont un sens, malheureusement.
Voilà, ensuite, pour le reste, moi, je suis un peu tiraillé, je suis un peu entre les deux, parce que d'un côté, je me dis, bon, écoute, il n'y en a pas beaucoup qui ont su partir au bon moment, qui ont su partir au top. Donc je me dis qu'à ce moment-là, c'est peut-être mieux d'aller, bah oui, hein, clairement, disons-le, de prendre son chèque. Après, aussi, je voulais revenir, parce que Fred Hermel avait souligné ça pas mal de fois. Il avait dit que à chaque fois, en fait, quand il renouvelait ses contrats, le Benzema et le clan Benzema en général, il n'y a jamais eu aucun souci au niveau... Enfin, il n'a jamais été gourmand, en gros, au niveau du salaire. Après, je ne suis pas là à dire qu'il était payé au lance-pied, hein, attention. Mais il me semble, enfin corrigez-moi si je me trompe, il a jamais été dans les.
Non, mais ça a toujours été un projet sportif. Ce rêve de jouer au Real a toujours été. Voilà. Moi, je me souviens, j'étais là.
Vous avez vu un truc important.
C'est toujours
Benzema
été le sport.
Est un des très rares sportifs français. Qui a toujours payé ses droits, ses impôts sur les droits à l'image, notamment en France.
Voilà. Ouais, enfin bon, après il y a un peu de mytho là-dedans, mais bon, peu importe. Bon. En tout cas, lui, il n'y a pas eu d'histoire comme Messi, Ronaldo. Il n'y a pas eu ces trucs-là.
Là-dessus, il y a toujours et sa carrière au Real.
Neymar surtout, il n'y a pas eu les parents derrière qui font des fausses déclarations, qui se trompent, des problèmes avec le fisc. Voilà, il n'y a pas eu d'histoire.
Il a toujours été le sport. Le sport a toujours été central et ça a toujours été son nom. Ça, personne n'a dit le contraire. Je ne surtout pas être mal compris.
C'est juste pour une précision parce que bon après c'est vrai que quand on écoute pas mal de personnes qui disent que bon il y va pour l'argent, moi j'ai envie de dire clairement et sincèrement et alors en fait parce que justement pour moi il a gagné ce droit là parce que voilà en 14 ans comportement irréprochable sur le terrain, zéro carton rouge, on n'a jamais vu un mauvais geste de lui, jamais une mauvaise parole, comme je vous l'ai dit précédemment, jamais eu de soucis de contrat, de négociation, tout ça qui mettait des plombes parce que le clan était gourmand, parce que l'agent était gourmand, etc. Pour moi, il gagne ce droit-là. Il y a aussi un point important. De toute façon, vous l'avez évoqué, c'est le fait qu'il soit de confession musulmane. Je pense que voilà, le club où il va, il me semble, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est à 30 minutes de la Mecque. Donc voilà, pour n'importe quel musulman, c'est
en avion.
Oui.
ou en jet privé.
Non, sûrement pas en char à voile.
Ouais.
Ni en karting.
Voilà, exactement. Voilà. Peut-être la F1, mais pas la F1.
Ce qu'on veut dire là-dedans, Mehdi, c'est que c'est un choix qui se respecte, il fait absolument ce qu'il veut. Simplement, dans l'analyse du choix, il faut prendre en compte tous les facteurs. C'est pas juste l'argent. Mais il y a l'argent, et c'est pas. Pourquoi par exemple, il n'y a pas les États. Tu vois, pour moi, c'est il faut aussi le dire, ça. Il faut aussi que.
Mais les États-Unis ne lui donnaient pas autant d'oseille.
Peut-être pas, je sais pas, j'en sais rien, Daniel.
Non, mais tu vois, par exemple, Nadia, c'est vrai que
l'Arabie Saoudite, maintenant.
Après, dans les kiffs de fin de carrière.
De manière aussi précipitée aussi.
Tu pouvais. Mais honnêtement, c'est son choix. Moi, j'ai pas. Enfin, voilà, moi, j'ai même pas envie de critiquer son choix. On peut débattre de son choix. Critiquer, vraiment, il fait ce qu'il veut. Mais on va dire qu'avec toute l'oseille qu'il avait en kiff de fin de carrière, je pense que j'aurais préféré les Galaxies. Il y a beaucoup moins d'argent, hein. Mais genre Los Angeles, machin, j'aurais plus fait un trip, ou Miami, j'aurais plus fait un trip comme ça. Mais Jeddah, c'est plutôt sympa, en plus. Bon, c'est pas la même vie qu'aux États-Unis, mais si lui, ça lui plaît, ça le fait kiffer. Bon, qu'il y aille. Maintenant, je crois pas que derrière, il y ait de la politique. Je crois pas derrière que ce soit motivé parce qu'il va habiter à une demi-heure en jet privé de la Mecque. Et franchement, avec les moyens qu'il a, même s'il habitait à Miami, s'il avait envie d'aller faire le pèlerinage, il le ferait. Donc, c'est pas ça qui est la motivation première de son choix. J'y crois pas une seconde à ça.
Dans la mesure,
vraiment, c'est juste la destination, l'opportunité.
De sa foi, sur Instagram, qui parle de ça. Mais il fait partie de sa foi,
il aurait pu l'exprimer partout ailleurs dans le monde. Je veux dire,
mais c'est à Terre Sainte, il n'est pas n'importe où là.
Ouais.
Bah oui, ça compte quand même.
Moi, je sais pas si je vois tout ça derrière le choix. Vraiment, je
Je pense que tu fais un choix familial. Je crois qu'il a pas de choix familial. Il a dit qu'il est avec sa famille. Donc, je sais pas, ça fait partie
mais
du.
Mais peut-être
du choix.
Tu vis bien là-bas. Je pense qu'il vivra très bien. C'est au bord de la mer.
Concluons.
C'est un pays qui, en plus, d'un point de vue du tourisme, est en train de se développer, mais complètement. Et qui, paraît-il, moi, je connais pas, est de plus en plus beau, justement, parce qu'on y découvre des endroits magnifiques.
Ah, bah, ça, c'est sûr que. Oh, là, c'est ça s'appelle soft power, quoi. C'est aussi une manière de parler du tourisme plutôt que de parler de politique.
La seule question qui, finalement, moi, je trouve beaucoup plus intéressante que celle du choix de Benzema, c'est qu'est-ce que veut faire l'Arabie Saoudite ? Qu'est-ce que ça peut apporter à l'Arabie Saoudite
du dossier
de dépenser autant d'argent ? Parce que qu'est-ce que ça va lui apporter
de
donner
en France ?
Exactement. Est-ce que ça va vraiment aider le pays de donner 200 millions à un joueur de foot et peut-être à tous les autres ? Parce que Kanté risque d'y aller. Il y en a plein d'autres, Busquets, qui vont peut-être y aller. Qui sait si Messi est l'ambassadeur carrément du pays. Maintenant, est-ce que vraiment ça les aide à améliorer leur image ?
Bah,
peut-être, j'en sais rien.
Ça a très bien fonctionné, c'est la stratégie du Qatar.
Bah, je sais pas si pour le Qatar ça a fonctionné. Moi, en quoi ça a amélioré l'image du Qatar ?
Ah bah quand même.
Ça a amélioré leur image.
Déjà, on sait que ça existe. Il y a 10 ans, le Qatar, on savait à peine où c'était.
Je pense que l'Arabie Saoudite, d'un point de vue du tourisme, a beaucoup plus à offrir déjà. Je pense qu'il y a plus de beaux coins qu'au Qatar. Peut-être que ça permettra le développement touristique du pays. Je signale qu'ils ont commencé par l'art, avec l'histoire du musée et du fameux tableau Salvador et Mundi. Là, ils ont commencé par ça. Mm-hmm. Bon, maintenant, ils font dans le sport. Bon, voilà, c'est. Mais moi franchement, je suis désolé.
J'ai pas.
À partir du moment où le pays dans lequel je vis, mon pays, est diplomatiquement très bien avec ce pays, qui font beaucoup de business avec eux, moi, j'ai pas à critiquer ce pays. Après qu'ils aient des valeurs que je ne partage pas au niveau des droits de l'homme, de la façon dont ils ont traité cette affaire de journalisme, et que d'ailleurs les États-Unis avaient accusé, et puis quand après il a fallu reprendre des bonnes relations diplomatiques pour d'autres intérêts, ils ont dit. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais ouais, non, mais maintenant on s'en fout de ça. Mmh. Maintenant on s'en fout.
Mais dis merci, et puis écoute.
Je trouve que je suis bien de peu de choses dans le monde pour aller me mêler de ce genre de problème international.
Vas-y, Mehdi.
Une petite dédicace à la Team Warzone et à mon frère Zied qui est supporter du Barça, mais je lui en veux pas. Et voilà, continuez comme ça, les gars, et on vous écoute tout le temps.
Salut, Mehdi, merci beaucoup.
Allez, salut.
Bye bye. Alors, juste sur N'Golo Kanté, précision. Lui aussi pourrait aller à l'Ittihad, et là on parle d'un contrat de 100 millions. Donc la moitié de Benzema.
Ah ouais, c'est vraiment un contrat de clodo lui quand même.
Oui,
100 millions seulement.
Si on peut le dire comme
Il a pas croqué lui.
Allez, mercato dans quelques instants, j'ai plein d'infos à vous donner, on revient tout de suite dans l'after.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Brisbois.
Il est 23h51, Daniel Riolo est là, Thibault Leplat est là, pas mal d'infos mercato à vous donner dans quelques instants, mais d'abord cette affaire de la Juve qui veut sortir de la Super League. Alors on va pas détailler tout ça ce soir, je pense qu'on le fera demain avec des invités, parce que il faut décrypter le pourquoi du comment, on le fera avec Johan Crochet et d'autres spécialistes. Sans doute demain soir, mais ce serait un coup dur pour la Super League si la Juve en sortait, vu que c'était le club à la pointe de ce combat.
Il faudra parler puisque tu parles de combat, effectivement du combat mené par Seferin avec des méthodes assez incroyables et hallucinantes, et du chantage qu'il a fait peser sur la Juve et qui a été finalement obligé de quitter le mouvement sous peine de pas d'être sanctionné très très durement. Voilà.
Ce sera demain soir en programme de l'after. Tout de suite, le mercato, jingle.
C'est combien ?
30 000.
Elle est bien, j'ai envie de la prendre.
Attends, je vais te le marcher.
Tu l'as fait à combien là ?
J'ai dit 30 000.
Ça vaut 15 000 francs là ?
Non, 30 000.
25 000 ?
Non, 30 000.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
Alors, dans le mercato, je signale qu'Eden Hazard pourrait prendre sa retraite. Assez étonnant.
C'est pas le cas déjà ?
Je m'attendais à ce genre de réflexion. Mais il a peut-être plus envie de jouer au foot. Il a quand même une offre de Vancouver.
Ça fait un petit moment qu'il a plus envie de jouer au foot. Déjà, il voulait pas s'entraîner avant.
Mmh. Ouais. Mmh. Quel crash incroyable. Exactement. Eden Hazard, c'est... Eden Hazard. Pourquoi je dis Eden ? Parce que Eden Hazard. Oussem Aouar va poursuivre sa carrière à la Roma. Ça y est, le long feuilleton.
Il le voulait déjà l'année dernière.
Départ Eden Hazard.
On va voir avec Mourinho, on va rigoler.
Ah ben, il va falloir soit il se met à bosser, soit.
Nouvelle vie pour Aouar. La Roma et l'équipe d'Algérie, puisqu'il a été convoqué pour la première fois, là, pour les prochains matchs de la sélection algérienne.
C'est sûr que sa vie va changer. La ville, déjà, le centre d'entraînement, l'exigence de Mourinho, ça va être différent. Les supporters, c'est un choc thermique.
Tempête sous un crâne.
Oui, là.
Info Marseille. Vous savez qu'Alexis Sanchez est une priorité absolue pour Longoria, il veut absolument le garder. Alexis Sanchez, il gagne 3 millions d'euros par an à Marseille. On est loin de Benzema. Et là, qui c'est qui rentre dans la danse ?
et ben l'Arabie Saoudite.
Ah.
Qui ne lui offre pas 100 millions comme N'Golo Kanté, mais 10.
Oh bah 10, ça suffit pour lui.
Donc 3 à Marseille, 10 en Arabie Saoudite. Que va-t-il faire ?
Fin de carrière.
Ce sera un coup dur pour Marseille. Hein.
Fin de carrière. Attention, hein.
Oh, 10 millions, c'est pas non plus.
Ah bah quand même. Thibaut, il a un rapport aux millions.
Les 7 millions assez vite, de différence, hein, là.
C'est une brotille, hein, t'as raison. Hein.
Non, à la limite, là, c'est un choix qui est plutôt facile. Je lui dis, bon, tu peux jouer à la Ligue des Champions à 3 millions avec dans un club important.
Tu vois, ça fait des Paradis. Années qu'il joue. Il a quoi, 34 maintenant? Ça m'étonnerait pas qu'il le fasse. Ah,
c'est quand même un joueur important. En fait, Sanchez, ça vaut pas. Tu vois, quand t'es 100 millions, Sanchez 10 millions.
À quel moment t'estimes que t'es en fin de carrière ou pas? Ça va être ça la question que beaucoup de joueurs vont se poser face à ce genre d'offre.
Angel Di Maria, lui, n'a plus de club.
Ah, Arabie Saoudite.
Fin de contrat.
Bah, fin de carrière aussi, lui aussi.
Il est capable de repartir en Argentine. Hein.
Tu dépasses la trentaine. Ouais. Mais tu sais que ça, le grand mythe des Argentins, ils y retournent jamais. Hein.
Oui, non, d'ailleurs.
Comment il s'appelle? Renato Civelli, Tevez,
Maradona.
Tevez, d'abord, il s'est gavé en Chine. Et après, il est retourné à Boca.
Zvitanić. Je sais pas, je sais. Riquelme.
Ah, il y en a alors, ok, très bien.
Il y en a.
Oui.
Tout cela n'ont peut-être pas eu d'offre de l'Arabie Saoudite. Enzo Lefebvre, accord de principe entre le joueur et Rennes. On parle de. Maintenant, il faut un accord entre Lorient et Rennes. On parle de 25 millions hein, pour. De transfert pour Lefebvre. Ouais.
Belle recrue pour Rennes, mais un joueur.
Très important pour Lorient.
Pour
Lorient, pour le Brice, c'est un joueur
important. Ah non, mais que ce soit important pour Lorient.
Un gros coup dur pour Lorient.
S'il va à Rennes maintenant, c'est un joueur qui ne s'inscrit pas dans tous les systèmes de jeu. Je ne suis pas étonné que ça plaise à Genesio parce qu'il aime ce genre de joueur-là. Fin avec le ballon technique, mais ça sous-entend aussi que tu joues d'une certaine façon. Il ne peut pas s'entendre avec n'importe quel mec au niveau du.
On peut voir le milieu Bourigeaud majeur le fait, j'ai envie de voir ça. Ça
petite info toulousaine pour finir. Toulouse a sorti les datas pour recruter un jeune espagnol. Il s'appelle César Gélabert. Rien à voir avec Nicolas Gélabert. Ou avec Gélabert Bribois. César Gélabert, 22 ans, il vient de Mirandes, club de D2 espagnol, milieu offensif, formé au Real. 2 buts, 4 passes décisives la saison dernière.
Ah, bon. Donc c'est pas ces datas-là qui ont intéressé alors.
On verra si c'est le nouveau.
Alors ils ont mis attaquant à 2 buts.
Voilà. Parce que là, si c'est avec ces datas qu'ils l'ont pris, là.
Et par ailleurs, Comoli a redit aujourd'hui, vous en faites pas, il n'y a pas de problème, on jouera la Coupe d'Europe. Il s'avance peut-être un peu, on verra. L'UEFA, pour l'instant, ne s'est pas positionné officiellement sur la question. Puis, dernière info, Sedan a aujourd'hui été rétrogradé administrativement en N2, ce qui pourrait sauver Nancy, qui pourrait être repêché. Voilà, 2 clubs historiques du foot français.
Sedan, club qui a été en Ligue 1, qui a coulé tout doucement en raison de gestion calamiteuse.
Ancien club d'Herrera.
Fait penser malheureusement à Bordeaux. J'ai reçu énormément de messages de Bordelais qui évidemment ont mis en avant amalgame, supporters, ce qui s'est passé et tout. Et évidemment qu'on pense à tous les supporters bordelais et on en connaît plein. Et parmi nos amis, évidemment, Baptiste est le plus connu parmi nos amis qui supportent Bordeaux. Évidemment qu'on n'a pas. J'ai du mal à comprendre que les gens aient pu imaginer qu'on veuille que le club coule. Non, néanmoins, on est bien obligé de dire la vérité et c'est quand même pas de notre faute à nous si on est obligé de dénoncer ce qui s'est passé vendredi. Et si oui, on est obligé de dire que le premier coupable de l'événement, c'est Bordeaux. Et c'est la direction qui n'a mal géré la sécurité et c'est ce club ultra qui se croit tout permis. Et évidemment que. Il y a 35 000 autres supporters dans le stade, 35 000 supporters dans le stade et ailleurs en France qui ne cautionnent pas ce qui s'est passé. Et oui, qu'on peut avoir de la peine pour eux. Néanmoins, ça ne retire rien à ce qui s'est passé et aux responsabilités des uns des autres.
C'est fini.
C'est pas les journalistes les responsables de ce qui s'est passé à Bordeaux. Hein.
N'oubliez pas d'aller sur afterfoot.media. La revue de l'After est toujours disponible. Des offres d'abonnement sympas. Et puis, comme on est en période de réabonnement, n'oubliez pas également de mettre à jour vos coordonnées de carte bleue si vous voulez que votre abonnement continue. Sinon, malheureusement, ça s'arrête et vous vous rendez compte trop tard que ça s'est arrêté.
Donc,
faites gaffe à ça. Allez, à demain soir.
Ciao.
Dans l'After. Bonne nuit à tous.
RMC, l'Afterfoot.
RMC. Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre ? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.